Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Salut à tous, 18h04, ravi de vous accueillir pour un nouveau Team Dugas jusqu'à 20h sur RMC. Nous allons nous régaler à parler football, mais pas que, parce que nous avons la chance aussi de parler cinéma. Ben oui, forcément, on s'est parlé de tout dans Team Dugas. Jean-Louis Tour est avec nous, bonsoir mon Jean-Louis, comment
salut.
Ça va?
Salut Dugas, ça va très bien, salut à tous.
Magnifique, Eric Dimeco également est là, bonsoir Eric.
Jean-Louis, salut Dugas, salut à tous.
Et Eric, il fait de la musique, il fait de la politique, il fait des commentaires, il fait des...
Voilà, il fait plus de politique depuis longtemps, moi.
Oui, mais t'as jamais fait, tu sais tout faire.
Oui, mais
et la politique le regrette.
Ancien acteur.
Pas du tout, mais je m'intéresse à la politique, par contre, oui. Ça m'a beaucoup intéressé ce qui s'est passé hier. Notamment, on en a parlé dans le Kikadi, l'élection d'Anthony Gauthier dans le nord de la France.
Eh oui.
Arbitre de foot.
Ouais, arbitre, exactement.
Eh oui.
Michael Youn est avec nous également. Bonsoir, Michael. Quelle chance de te recevoir. Merci, mon poulet, d'être dans le Team Dugas.
Mais c'est toujours un plaisir. Je suis très, très content d'être là. Sans plus de commentaires.
Tu te sens un peu seul.
Je me sens un petit peu seul. Je ne peux pas dire pourquoi, parce qu'on ne va pas divulguer ce qui se passe dans cette émission.
T'inquiète pas, nous, on le fait.
Ah, d'accord.
C'est avec Dugas, est confiné depuis 3 mois, mais il n'en est jamais sorti.
Il fait une couvade. Il va accoucher dans pas longtemps.
Les gars, c'est terminé. Moi, on me dit viens RMC, je viens. Il n'y a personne. Je suis tout seul dans un studio. Avec une bouteille d'eau, qu'est-ce qui se passe?
Et surtout, en plus, pour parler d'un film sur le divorce, en plus.
Ouais,
en plus
on va, club.
Et puis, on va déprimer, en plus.
T'en sais quelque chose? Oh, bah non, il est pas.
Oui.
Les deux.
Non, on va pas déprimer.
Dugas, oui.
Ben oui, on a tous été invités au repas des coquilles un jour ou l'autre.
On y reviendra effectivement sur la sortie de ce film. Et Michael, alors j'avais vu la dernière fois que tu étais venu à RMC, tu disais que tu regardais plus les matchs du PSG, que c'était
bah là,
fini.
Bah là c'est bien parce que j'ai pas eu à en regarder depuis 3 mois.
Oui, mais sinon. Non,
en revanche, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai l'impression que Le Graët a dit que finalement le football français avait choisi la bonne voie. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'en tant que supporter, moi, ça m'a manqué de ne pas voir les matchs français reprendre et de voir tous les autres reprendre que je n'ai pas regardé les autres championnats, je ne les ai pas regardés, mais j'aurais bien voulu aller jusqu'au bout quand même de ce championnat
et que ça reprenne. Effectivement, voilà. Noël Le Graët a dit qu'il ne regrettait pas, que c'était la bonne décision, même si ça a repris partout ailleurs.
Et vous avez dit quoi, les garçons?
Comme il disait l'autre, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Nous on voulait que le sport
reprenne ses droits,
mais que ce soit pour l'équité sportive.
Plus, il a dit n'importe quoi.
Non. Moi j'ai jamais bougé depuis le début, d'abord pour l'équité sportive. Et ensuite, je pense que c'est un bon message pour montrer que la France repart, quoi. Moi, je trouve que revoir du sport, c'est un autre message, et ça, on ne l'a pas envoyé.
Non, mais là, surtout, en plus, les coupes nationales, elles vont se dérouler devant quand même quelques spectateurs, j'imagine.
Oui, mais ça, c'est
parce que on se rend compte qu'on aurait pu décaler un peu les coupes nationales et faire durer le championnat jusqu'au mois d'août et sans doute avoir des qualifiés pour la Ligue des Champions qui soient un peu plus représentatifs que sur une vingtaine de matchs.
Des vrais aussi.
Tu as entièrement raison, Michael, mais ça n'a pas pu se faire parce que ça me paraît à moi assez évident, c'est que chacun a joué sa carte personnelle. Voilà, il y a eu 50 propositions en fait des uns et des autres, il y a eu aucun accord entre eux.
C'était
le bordel, c'est pour ça qu'il y a...
J'ai l'impression que moi, ils ont surinterprété une décision du Premier ministre qui disait, bon, évidemment, les championnats de foot ne reprendront pas, mais quand il dit ne reprendront pas, c'est ne reprendront pas avec des gens dans les stades. Et on aurait très bien pu reprendre à huis clos.
Ah, c'est allé un peu plus loin que ça, quand même.
Ah bon?
Oui, à ce moment-là. Mais après, c'était un contexte aussi où
la France
de dramatisation...
Les stades auraient pu attendre.
Voilà, ce qu'il fallait faire, c'était attendre.
Et ne pas écouter la cacophonie.
Il n'y avait pas de test, il aurait fallu plus de tests pour les sportifs.
Bon, écoutez, c'est pas grave, l'OM sera en Ligue des Champions.
Ah bah l'OM, on va en parler.
Mais dis-moi, ça te fait rire en plus, toi.
Mais je trouve ça très beau de ta part, Eric, d'être pour la suite du championnat et donc pour l'équité sportive, sachant évidemment quel est tout ton passif affectif avec l'Olympique.
Et que l'OM n'aurait pas fini deuxième.
Si, l'OM aurait fini deuxième. Mais peut-être que Lyon aurait gagné 17 points en 3 matchs, on ne sait pas.
Il chauffe, Michel. Alors, on y va donc pour Team Dugas, Mickaël avec nous à l'occasion de la sortie de Divorce Club, on y reviendra tout à l'heure. Donc, tu fais comme chez toi, tu réagis à l'actu. On va parler de la vente de l'OM dans une seconde. À 19h, Dimitri Payet au programme. Remonte-t-il dans votre estime? Il a prolongé son contrat, baissé son salaire. On vous donnera les infos tout à l'heure. Et puis, on est dans les dernières émissions de Team Dugas. Moi, ça me fait quelque chose. Là, dans 2 semaines, c'est fini. C'est fini à vie,
Mickaël.
Désolé de te l'annoncer comme ça.
T'es transféré où? Parce que
c'est la retraite.
Radio Marrakech.
Ouais, c'est retraite.
Pas faux. Je vais essayer.
Non mais c'est vrai, t'arrêtes?
Oui, j'arrête, ça y est.
Mais non.
Ben si, mon poulet, quoi. Il y a autre chose après le foot, après la radio. Il y a plein de choses à faire.
Mais dis-moi quoi, au moins, fais-nous.
Je te dirai, je t'appellerai, t'inquiète.
Il va se lancer dans le cinéma, fais gaffe.
Il y en a bien qui font du rock.
Alors de l'huile d'olive, il va faire de l'huile d'olive.
Ouais, de l'huile d'olive, ça fait un moment déjà. C'est 4 ans qu'on fait de l'huile d'olive sur mon fauteuil à la radio.
Et comme donc nous sommes dans les derniers Team Duga, on va revenir à 19h30 tout à l'heure sur les débats qui ont marqué Team Duga depuis 4 ans. Aujourd'hui, Karim Benzema, qui a donc brillé avec le Real hier, vous avez tous vu ça.
Belle talonnade.
On reviendra sur sa relation compliquée avec Didier Deschamps et sur une prise de position de Duga qui lui a coûté tellement cher, son amitié avec Didier Deschamps. Enfin bon, on y reviendra tout à l'heure à 19h30.
Ça va être trop triste.
Non, mais moi qui suis pas au parfum, mais informez-moi quand même un peu.
Ah,
vu que je suis tout seul en plateau.
Qu'est-ce
que t'as dit, Duga? Vas-y, tease-moi.
Je le fais, je le raconte.
Ouais, vas-y, Jean-Louis, ce sera plus.
Alors, c'était avant la Coupe du Monde 2018, où Duga s'était un peu emporté sur les choix de Didier Deschamps en disant j'ai l'impression parfois que Didier Deschamps prend en otage l'équipe de France avec ses choix sans jamais les expliquer. Sans jamais les justifier. Et Duga reproche notamment à Deschamps de ne pas avoir appelé Benzema pour lui dire écoute, j'ai beaucoup de respect pour toi, t'as 81 sélections, mais voilà pourquoi je ne te prends pas. Et donc Duga s'était un peu énervé pour ça et Deschamps avait bloqué sur la phrase il prend l'équipe de France en otage.
En otage.
Voilà.
Et puis comme derrière il a gagné la Coupe du Monde, à un moment Duga. Marrakech.
Il a fallu aller sur le chapeau.
Non, je crois pas que ce soit. Bah après, ça empêche pas de gagner, mais ça.
On a été quand même très nombreux pendant un moment à penser que Karim avait véritablement sa place dans cette équipe. Après, Didier Deschamps et ses joueurs ont prouvé le contraire, parce qu'il y a eu l'émergence aussi de nouveaux talents comme Kylian Mbappé qu'on n'avait pas forcément vu venir au départ. Mais c'est sûr qu'il y a un moment.
Ça m'empêchera pas, Michael, de penser qu'un trio Mbappé, Benzema et Griezmann auraient pu quand même nous donner beaucoup plus de plaisir.
Que Giroud. Ah ouais.
Non, mais Giroud avait à sa place aussi, mais je pense que ce trio, on aurait tous aimé le voir.
On est tous d'accord.
Excellent, ouais. Michael.
Enfin, si t'aimes le foot, t'es forcément d'accord avec ça.
Excellent, Michael. Sur le foot, tu fais quoi l'année prochaine à 18h?
Je fais, alors, Team Mika, avec Eric Dimeco.
Pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas, on peut y réfléchir.
C'est cher, par contre. J'ai peur que ce soit trop cher.
Je suis un peu plus cher, parce que moi, j'ai pas accumulé autant d'argent en 98, donc forcément.
Bon.
Oh, je suis venu avec mes fuses, hein. Je te préviens, je suis en forme.
Eh ben, écoute, tu fais ce que tu veux, t'es chez toi.
Est-ce que tu gardes Franck Leboeuf, par contre, si tu prends, tu fais.
Oui, s'il arrête le théâtre.
Ah, très bien.
Concurrence déloyale.
Je suis pas sûr qu'il ait très peur de la concurrence, mais.
On n'est pas déloyal.
On embrasse Francky, comme d'habitude. Tu vas m'envoyer un texto ce soir, mais bon, c'est pas grave. Alors, l'OM. Et donc, la vente, le dossier du moment, plein de choses à aborder. Mohamed Bouassi nous rejoint. Bonsoir, Mohamed.
Salut, Dugas. Salut, Eric. Salut, Mika.
Salut, Mohamed. Tu vas pouvoir nous donner toutes les infos RMC Sport sur ce dossier. Juste avant, on a plein de choses à aborder. Donc Mourad Boudjelal, qui était dans le Super Moscato Show tout à l'heure, on va l'entendre dans un instant. On sera aussi avec Georges Malbruno, spécialiste du Moyen-Orient, pour nous éclairer sur ces fameux investisseurs qui seraient derrière le projet de Boudjelal. Commençons déjà par ce que l'on sait, ce que l'on a entendu depuis quelques jours. Donc vendredi, aux grandes gueules sur RMC, Mourad Boudjelal, donc le président emblématique du Rugby Club Toulonnais, a annoncé être porteur d'une offre pour l'OM, financée par donc des fonds étatiques et privés du Moyen-Orient avec l'appui d'un homme d'affaires franco-tunisien très important. Il s'agit donc de Mohamed Ayachi Ajroudi qui aurait derrière lui donc un groupe d'investisseurs. Il l'a indiqué, ce fameux Mohamed Ajroudi, donc sur une radio tunisienne ce matin. Il a confirmé tout ça, mais il n'a pas confirmé le chiffre qui circule en ce moment de 700 millions d'euros.
McCourt est vendeur, quoi qu'il arrive.
Ça va être le point important.
Parce qu'est-ce qu'il est vendeur? Parce qu'il y a un acheteur, c'est
l'OM dit qu'il n'est pas vendeur. Jacques-Henri Hérault l'a encore répété il y a quelques jours en disant on n'est pas vendeur. Après, Mourad Boudjelal lui dit il y a notre offre, il y en a d'autres en même temps, donc on sait que ça peut intéresser Franck McCourt quand même.
Qui était son objectif, il était venu là lui pour faire une belle opération.
Exactement.
Compris immobilier d'ailleurs.
Ce qu'il dit, c'est qu'il y aurait 700 millions déposés en banque, 300 pour racheter l'OM, 200 pour éponger la dette, 200 pour un futur mercato. Tout ça n'est pas confirmé, mais c'est ce qu'on entend et c'est ce qui excite forcément les supporters marseillais. Mohamed, est-ce qu'il y a des choses à apporter en plus?
Alors, il y a des choses à légèrement corriger dans ce que tu viens de dire, Jean-Louis. Tout d'abord, ce chiffre, ce montant de 700 millions d'euros a été démenti par plusieurs personnes et notamment par Mourad Boudjelal il y a quelques minutes, en disant notamment que c'était un chiffre qui était infondé, erroné. Lui n'avait jamais évoqué ça. Et on rappelle aussi que l'OM n'a pas 200 millions d'euros de dettes. Les dettes ont été épongées par Franck McCourt et sont épongées à chaque passage devant la DNCG. Donc aujourd'hui, l'OM officiellement est un club qui arrive avec 80 millions d'euros de dettes, 90 millions d'euros de dettes, mais qui devront être épongés par Franck McCourt. En clair, aujourd'hui, messieurs, la position de Mourad Boudjelal, c'est de dire on a une offre entre les mains, on va transmettre une lettre d'intention. Il a finalement un peu changé son fusil d'épaule. Il disait au début qu'il y allait avoir un montant sur cette lettre d'intention. Finalement, il n'y aura pas de montant. Elle devait arriver aujourd'hui, voire demain, elle arrivera finalement en fin de semaine. Donc il y a que quelques zones d'ombre autour de ce dossier et on est dans une situation d'expectative plutôt, Jean-Louis, qu'autre chose. On est dans une situation d'attente, sachant que Mohamed Ajroudi s'est exprimé. On ne sait pas, messieurs, qui est le pôle d'investisseurs derrière ce financier. On sait juste que vendredi, le plus grand prince saoudien a démenti auprès d'RMC Sport un intérêt quelconque lié à celui de Mourad Boudjelal. Aujourd'hui, on n'a pas ces réponses-là. On est dans une situation d'attente. On rajoute aussi que l'entourage de Franck McCourt nous a démenti les deux offres évoquées par Mourad Boudjelal, une offre russe, une offre chinoise. Oui. Ça, on nous l'a clairement démenti. Et Mourad Boudjelal, qui est un fin communicant, a dit qu'il démentait le communiqué qui démentait son Exactement. Information.
Alors, avant d'avoir votre réaction, juste écoutez.
J'ai déjà mal à la tête.
Ouais, non, c'est franchement, ça va. Pour des businessmen comme vous tous, ça passe.
Ouais, bien sûr, ouais.
Écoutez, Mourad Boudjelal, il y a quelques minutes sur RMC dans le Super Moscato Show, il tenait à préciser que les investisseurs qu'il y avait derrière lui avaient les moyens, voire plus que Franck McCourt.
Si vous êtes candidat à Marseille, il faut que vous soyez avec des gens qui, s'il y a besoin, peuvent être déraisonnables. C'est-à-dire, je pense qu'aujourd'hui, que les gens avec qui je discute et qui veulent investir à l'OM ont des moyens supérieurs à McCourt, oui, bien sûr.
Voilà, donc des moyens supérieurs. Donc ça a de quoi faire rêver les supporters. Duga, comment tu analyses cette situation ?
Non mais je sais pas. Sincèrement, moi Jean-Louis, j'ai essayé de comprendre, tout comprendre entre les déclarations des uns, les contradictions des autres, les annonces qui sont bonnes, qui sont pas bonnes, télé tunisienne, télé marocaine.
Non mais ce qui est simple, c'est que Boudjelal veut racheter le club, oui, et que McCourt pour l'instant a pas donné suite.
Non mais même Monsieur Boudjelal, j'adore ce monsieur, c'est un passionné, il est passionnant. Voilà, mais il voulait racheter Toulon, après il voulait racheter un club de Marseille, c'était Marseille Consola, c'était
Marseille Atlético, l'Atlético de Marseille.
Voilà, l'Atlético de Marseille. Voilà,
maintenant, existait, l'Atlético.
Voilà, non, maintenant il va racheter l'OM. Je, sincèrement, je l'ai tellement entendu sur mes 40 ans passés dans le foot. J'ai toujours entendu l'OM racheter toujours Maradona qui devait débarquer, le port bloqué, oui, par une sardine.
Il y a plein de fantasmes autour de l'OM.
Il y en a toujours eu des sardines, le retour de Drogba, le retour de l'OM. Voilà, je sais pas si ça arrive, ça sera peut-être bien, on n'en sait rien. Aujourd'hui, il y a trop d'incertitudes.
Okay, on est trop loin, d'inconnus. Selon toi.
Bah oui, je peux, sincèrement, je peux pas m'exprimer.
Eric, comment tu vois les choses?
Bah écoute, en observation, on a eu Mourad tout à l'heure. Bon, moi, je lui ai posé la question sur la manière. Hein. J'ai été surpris.
Pourquoi sortir dans les médias, en fait?
Ben,
c'est ça,
voilà,
qui étonne.
Moi, la question que je lui ai posée, j'ai dit, moi, si je veux acheter quelque chose qui est très cher et qui est convoité et sur lequel j'ai une grosse négociation, je vais de gré à gré discuter avant de peut-être sortir dans les médias. Et donc, je lui ai dit que le fait de sortir comme ça dans les médias, ça mettait une grosse pression sur la direction actuelle. Ça mettait beaucoup d'effervescence à Marseille, parce que les gens ne parlent que de ça depuis 3 jours, et que ça pourrait faire des déçus si ça ne marchait pas. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris qu'il nous a dit qu'il avait tenté de rentrer en contact avec Franck McCourt, que ça n'avait pas... et que c'est à ce moment-là qu'il était sorti du bois. Tu réécouteras bien l'interview, mais c'était l'explication qu'il nous donnait. Ensuite, ici, il y a tellement d'espoir sur cette annonce que du coup je suis méfiant, parce que moi j'ai peur du retour de bâton, pas parce que Mourad ne serait pas sérieux, mais parce que ça ne dépend pas que de lui, que ça dépend d'abord des investisseurs qu'il y a derrière, et ça dépend aussi de l'envie ou non de Franck McCourt de vendre, parce que malgré tout c'est son club, et il fait ce qu'il veut, tout est à vendre, mais peut-être pas à n'importe quel prix, peut-être pas à n'importe quel moment, et moi j'ai peur si ça ne se fait pas, pour diverses raisons, hein, tout en étant sérieux des deux côtés, la pression populaire sera telle sur les dirigeants actuels que la saison prochaine peut être très très compliquée. Ici, tu sais ce que c'est, Duga, beaucoup penseront que c'est à cause de la direction actuelle que ça a capoté, et il peut y avoir des banderoles dès la première journée jusqu'à la dernière journée de championnat. Oui. Et ça, moi, ça m'inquiète, parce que déjà, elle est périlleuse cette saison prochaine, avec une Ligue des Champions, avec un calendrier qui va être énorme, avec un effectif finalement qui ne sera pas pléthorique. S'il y a ça par-dessus... moi je j'ai peur pour mon club maintenant. Si ça aboutit et qu'il y a énormément de moyens, je peux te dire que là, ça, sur le Vieux-Port, on va faire la chenille. Hein.
Vous allez pouvoir réagir au 32-16, bien sûr, supporter Marseille. On va vous donner la parole.
Et je ne ferai pas la locomotive.
Juste
je le dis
avant,
de suite.
Georges Malbruno est en direct avec nous, grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient. Bonsoir.
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 Est-ce que vous connaissez, pour débuter, Mohamed Ayachi Ajroudi, qui serait donc le représentant d'un groupe d'investisseurs donc prêt à racheter l'OM?
Non.
D'accord, vous ne le connaissez pas du tout.
Bien, avez, merci, au revoir.
Vous avez dû découvrir son nom, j'imagine, en même temps dans la presse. Je vous ai vu parler d'une autre offre concernant l'OM, en dehors de celle de Mourad Boudjelal.
Voilà. Alors, je connais quelqu'un d'autre qui est visiblement associé à cette offre-là de Mourad Boudjelal. Et puis, j'ai appris qu'effectivement, un oligarque russe avait fait une offre il y a 15 jours sur insistance, sur proposition de Vladimir Poutine, un oligarque russe dont je ne connais pas le nom et dont les comptes ont été gelés aux États-Unis. Et voilà, donc il y a cette offre-là qui a été faite. Il y a très vraisemblablement l'offre de Boudjelal. Ce que j'ai appris, c'est qu'effectivement, vous avez le communiqué qui a été publié par l'équipe Boudjelal est suffisamment vague sur l'identité des investisseurs. On a parlé d'investisseurs étatiques, privés, dans le domaine du pétrole, dans le domaine de l'énergie. Bon, derrière, c'est plutôt saoudien avec éventuellement une participation émirienne. Ça fait sens dans la mesure où l'Arabie Saoudite, moi je l'ai écrit l'an dernier, veut acheter un club de football en Europe pour concurrencer son voisin et ennemi, le Qatar. Pour ces gens-là, eh bien, il est inconcevable que le championnat de France de football se résume à une course en tête du PSG et donc par conséquent à une vitrine offerte au Qatar. Et donc, il y a quelques années, le prince Walid bin Talal qui s'était monté intéressé par l'Olympique de Marseille. Au printemps, il y a eu ces rumeurs, probablement un peu infondées, mais qui reposaient quand même sur une rencontre entre un émissaire du prince Walid et puis McCourt. Voilà, et donc là, visiblement, il y a quand même il se passe des choses. Alors après, il y a un jeu assez intelligent de la part de McCourt, c'est de dire que le club n'est pas à vendre, ce qui permet de faire monter les enchères. Un jeu aussi intelligent de la part de Mourad Boudjelal et de son équipe, c'est de compter un petit peu sur la pression populaire pour à Marseille pour amener McCourt à sortir du bois, parce qu'aujourd'hui c'est ça le but du jeu, c'est de forcer le propriétaire de Marseille à se positionner par rapport à une offre qui, même si on dit qu'il n'y a pas eu de chiffres, il y a dû quand même avoir quelques chiffres qui ont circulé. Donc voilà. Ouais.
Vous nous expliquez que les Saoudiens viendraient à Marseille pour concurrencer les Qataris du PSG. En gros, c'est
exactement.
Ça.
Là, j'en suis sûr et ça fait sens. Et voilà, parce que.
Mais expliquez-nous pourquoi ça fait sens. Parce que pays qui ne s'aiment pas, voire sont en conflit, on ne les imaginait pas régler ça sur un terrain de foot. Vous voyez, si je schématise un peu.
C'est la diplomatie douce. Hein.
Bah voilà,
c'est comme ça qu'ils s'affrontent.
Il y a plusieurs raisons. Le Qatar, comme vous le savez, donc, a acheté le PSG il y a une dizaine d'années de cela. Ça lui a donné une formidable vitrine dont il se sert. Et depuis 3 ans, l'Arabie Saoudite, les Émirats sont en guerre avec le Qatar. Et les Saoudiens, pour essayer de contrer cette offensive du Qatar en matière de sport, veulent se payer un club en France, comme les Émirats Arabes Unis en ont un en Grande-Bretagne. C'est aussi une question d'ego de la part de ces pétromonarques qui, à travers ça également, veulent mobiliser leur jeunesse. Et l'Arabie Saoudite, il y a une jeunesse, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent plus ou moins, mais qui sont des sportifs devant leur écran de télévision. Donc, tout ça fait sens, ils ont des moyens, or, l'exemple du PSG montre quand même que le Qatar derrière a mis beaucoup de moyens, a fait du PSG une grande équipe, même s'ils n'ont pas encore été champions d'Europe, et par conséquent, l'Olympique de Marseille, en plus avec une particularité, je dirais, locale, Marseille, c'est la Méditerranée, c'est l'autre rive de la Méditerranée, c'est le sud, c'est une ville où il y a une vraie identité, culture footballistique, donc voilà, c'est un club d'ailleurs que le Qatar voulait acheter il y a une quinzaine d'années, mais un industriel français avait conseillé alors à l'émir de ne pas l'acheter parce que c'est un club difficile, etc.
D'accord.
Donc voilà, tout ça fait sens. Après, on est dans une période aussi où, quand même, d'après ce que j'ai compris, le club n'est pas en extrêmement bonne situation financière. Donc, est-ce que le propriétaire aujourd'hui a intérêt à temporiser éternellement ? Est-ce que la valeur de Marseille sera supérieure dans 6 mois à ce qu'elle est aujourd'hui ? J'en suis pas sûr. Donc D'accord. Là, on est dans ce rapport de force aujourd'hui.
Très bien. Duga, tu voulais une dernière question ?
Non, je me demandais pourquoi c'est pas l'État saoudien alors qu'il investit directement.
Ah, comme le Qatar a fait.
Comme le Qatar a fait, quoi.
Après, le Qatar ne l'a pas vraiment fait avec le PSG. Ils sont pas allés
voir le PSG. Non, mais c'est une très bonne question, parce que le Qatar l'a pas fait, c'est Qatar Sport Investment, qui n'est pas l'État du Qatar, mais qui est le Qatar. Et ce qui est évident, c'est que si des investisseurs saoudiens investissent à Marseille, in fine, il y aura l'aval ou le refus du prince Mohammed bin Salman, qui est le prince héritier, qui est l'homme fort de l'Arabie Saoudite. Mais on trouvera toujours un véhicule financier pour dire c'est Saoudi, etc., etc. Mais ce sera l'État saoudien ou émirien qui sera derrière. Donc voilà, mais après, ce sont des artifices.
Merci beaucoup Georges Malbruno, merci pour votre éclairage.
Merci Georges, merci beaucoup. Donc là, l'OM est à deux doigts, mais à deux propositions. Une d'un Russe mandaté par Poutine, et l'autre d'un Saoudien mandaté par Ben Salman.
MBS. On le sait, c'est vive la démocratie dans le nouveau
foot. Juste, il n'y a pas besoin de chercher loin les informations sur ces points-là. Les Qataris ne peuvent pas investir en France. Il y a le PSG, ils ne peuvent pas investir sur d'autres pays européens. Les habitants de l'Émirat, j'allais dire les habitants de l'Émirat arabe uni, les Émiriens, en fait, eux ont Manchester City avec plusieurs clubs européens et ne peuvent pas investir en Europe. L'Arabie Saoudite s'était focalisée sur Newcastle. Là, les problèmes existent autour de Newcastle, autour du rachat de Newcastle. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'Arabie Saoudite et très peu des autres pays, parce qu'il n'y a que ce pays-là au Moyen-Orient qui est capable d'acheter un club européen.
Michael, en tant que supporter du PSG, j'aurais d'un bon oeil. Voilà.
Ah non, bah évidemment, ce serait super. C'est plus il y a d'équipes fortes, évidemment, plus le championnat est attractif, plus c'est agréable de regarder les matchs. Là, je le vois pas du tout en termes de supporter du PSG. Je le vois en tant qu'amoureux du foot français, évidemment, ce serait super. Maintenant, c'est une vraie partie de poker menteur. J'ai pas tout compris, mais j'ai l'impression que tout le monde ment ou tout le monde avance à couvert. On sait pas s'il y a vraiment une proposition chiffrée. On sait pas si McCourt, il est vraiment vendeur. À mon avis, si on lui fait une belle proposition, il vendra, mais les autres, ils veulent pas exactement dire quelle est la proposition. En tout cas, faut se dépêcher parce que il a raison, Eric. Ça va faire du mal à l'équipe, ça. Ça va faire du mal. Les supporters vont nourrir des frustrations. Et c'est dommage parce que si tout ça, c'est un coup d'épée dans l'eau, ça fait beaucoup de mal pour pas grand chose.
Et après, l'autre question qu'on pourra aborder aussi dans les jours qui viennent, si ça se concrétise, c'est est-ce que Mourad Boudjelal sera aussi à l'aise dans le foot qu'il l'a été dans le rugby?
Alors après, moi, je le trouve brillant, moi. Vraiment, je le trouve brillant. Je le trouve, comme Duga disait, il est passionnant, il est passionné. C'est pas la même chose,
d'accord,
le rugby. Mais en tout cas, c'est un mec qui sait faire avec le sport professionnel.
On n'a pas la réponse, mais on a quand même des éléments de réponse. Oui. C'est-à-dire la gestion de club de sport, il la connaît, même si c'est pas la même économie. Le charisme il a,
personnalité. Il est meilleur que Jean-Michel Jarre pour diriger
le patron. Il a l'âme d'un patron. Voilà. C'est important d'avoir un mec qui a du charisme, un patron qui sait.
Voilà, la poigne par rapport aux joueurs et tout, il l'a. Il a managé des sangliers pendant je sais pas combien d'années, donc c'est plus facile, tu vois.
Avec que des tops.
C'est pas la même chose quand même. Ouais. Mais bon, on y reviendra plus tard. On va donner la parole à un supporter marseillais dans un instant et on parlera donc de Divorce Club. C'est pas une nouvelle émission de foot, c'est le nouveau film de Mickaël Youn. A tout de suite dans Team Duga.
RMC. 18h20h,
Team Duga,
Jean-Louis Tour, Christophe
Dugarry. Allez les amis, 18h31, Team Duga continue avec Jean-Louis Tour, avec Eric Dimeco, avec Mickaël Youn, que du moment de mon Jean-Louis. C'est le moment de parler de quoi, dis-moi?
Alors écoute, on va parler du film de Mickaël, bien sûr. On aura le journal moyen avec Adrien Aigouin. Adrien est déjà avec nous, c'est dans un quart d'heure. Salut Adrien.
Salut les copains.
Salut.
Ça va? On va voyager, on va aller à Liverpool dans le journal moyen. On va passer par une ville que Duga fait rêver, Milan. Tu as fait rêver Milan, Duga, la ville de la mode.
Dans les restaurants, dans les discothèques.
Les cheveux longs, un petit écarteur de narines.
Les Milanaises se souviennent du passage de Duga.
Et les Barcelonaises, t'imagines
pas. Et on va parler d'une star du foot qui avoue son amour pour la vodka. Pas facile d'avouer à ce moment-là quand on est joueur de foot.
A tout à l'heure, Adrien, merci. Mohamed Bouafsi, reste avec nous.
Marco Verratti, non?
Non, arrête. Marco Verratti avec Mickaël.
J'ai eu beaucoup trop de problèmes
la dernière fois qu'il est venu chez nous.
Non, mais il y a des. Bah, après, je me tais.
Si je raconte jusqu'où on en est allé, après, je vais plus pouvoir. Raconte ce que tu veux. Moi, je raconte juste ce qui s'est passé la dernière fois que t'es venu.
Non, viens, on en reparle pas.
Même pas ça.
Même du gars, t'es pas au courant.
Mais si, mais c'était dans ton émission, du gars.
Mais quoi? Non, mais c'est la bonne émission. Non, mais il avait dit que Verratti était un fumeur, mais ça posait quoi comme problème?
Oui, alors voilà, il avait dit ça la dernière fois.
Moi, je peux dire des bêtises, j'ai pas de sponsor. Lui, il a des sponsors derrière, donc après, c'était compliqué.
Bon, il est sponsorisé par Marlboro alors que s'il fumait des gitanes, c'est ça?
Non, mais je me suis excusé. Et d'ailleurs, je tiens à m'excuser, ça n'était pas ma place de raconter ça. Ça ne me regarde pas, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà.
Très bien.
Bon, ouais. super, on l'embrasse.
Malbon.
Michael, c'est devenu un flamme Mireille. On l'a
changé. Ah bah les acteurs libres, c'est plus que ça.
Je peux rien dire, ça y est.
Me branchez pas, je vais
Il est en train de bouillir.
Le mec qui réveillait ses voisins, quoi. Il nous endort maintenant.
Tu te rends compte qu'avant c'était le Morning Live, c'était l'homme libre, c'était l'homme qui prenait le flambeau.
Mais qu'est-ce que tu veux,
qui avait des opinions, c'est le Jean-Jacques Bourdin de l'humour. Moi, c'est une chicomole, c'est devenu.
Sinon, je ne peux plus rentrer au Parc des Princes, je fais comment, moi?
Tu rentres déjà plus.
T'es pas interdit de stade. C'est fini.
Arrêtez, je suis coincé de tous les côtés. J'ai plus d'arguments, je vais me foutre à poil.
Mais t'en veux pourquoi alors?
C'est parce que. Bref, arrête! Bon,
allez. Allez, chaîne.
Non, mais en clair, ils se sont retrouvés dans une soirée, tous les deux.
Ah bon?
Oui.
Allez, on enchaîne.
Bon, allez.
Alors, et donc, dans la suite de l'émission, Dimitri Payet, c'est génial. Donc, il a re-signé à l'OM et il a décidé de faire une ristourne.
Bon, on n'est pas là pour mettre les invités en difficulté.
T'as quand même pas eu peur de Verratti, quand même.
Allez, Morgan est avec nous, supporter de l'OM.
T'as pas de retour vidéo, là?
Non. Putain, si tu voyais ma tête. Morgan, bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Bon, ça te plaît, Boudjelal, ce projet, etc.?
Ben, ça va être compliqué pour ma cour de garder le club maintenant, parce que déjà qu'à Marseille, on supporte plus Harry Potter et la Merloc. Là, aujourd'hui, avec ce qu'on nous annonce, je vois pas quel intérêt aurait ma cour à garder le club, étant donné que financièrement, il ne peut plus investir. Donc, sportivement, il peut pas nous faire progresser. L'année qui arrive, si on accroche une troisième place en Ligue des Champions, c'est déjà un exploit. Tout en essayant de se qualifier encore pour la Ligue des Champions l'année d'après avec 15 joueurs, ça va être compliqué. Ils annoncent des moyens supplémentaires à ma cour, donc je vois pas quel intérêt aurait Boudjelal de mentir là-dessus. Et pour répondre à la question de Jean-Louis tout à l'heure, on peut pas faire pire que héros à la présidence du club. Boudjelal, je pense que c'est l'homme, pas l'homme idoine, mais ça serait vraiment quelqu'un de bien dans le club sudiste de l'OM. Et je vois, à part de l'immobilier, je vois vraiment pas quel intérêt à ma cour, s'il récupère ses billes, de garder le club aujourd'hui, en sachant que dès la première journée au stade, s'il vend pas le club, va y avoir le feu. Directement, va y avoir le feu. Parce qu'on nous annonce Boudjelal, mais apparemment, il y a deux autres offres qui, de toute façon, apparemment, ont plus de moyens que lui. Lui, aujourd'hui, n'a plus la capacité d'investir sportivement. Donc, à part si c'est pour de l'immobilier, il n'y a pas besoin de l'OM pour ça. Je vois pas quel intérêt il a à garder le club. Héros, ça va être une année horrible pour lui au stade. Ça va continuer comme l'année dernière, si ce n'est pire, parce que refaire la même saison que l'année dernière qui calmait les ardeurs envers Héros, ça va être compliqué. Donc, il a que des points positifs à partir du moment où, bien sûr, il récupère son argent, parce que c'est pas non plus gratuitement qu'il va lâcher le club. Mais je vois pas quel intérêt aujourd'hui il aurait envers les supporters, envers le club et même sportivement de garder l'OM.
Oui, mais peut-être qu'il n'a pas l'offre qui lui permettrait de récupérer ses billes. C'est peut-être ça l'incertitude pour l'instant.
Et peut-être parce que McCourt, on lui prête beaucoup de défauts. Mais c'est pas un sale type. Et donc, je pense que si les propositions ne sont pas sérieuses, il va pas sacrifier l'Olympique de Marseille.
Peut-être, oui.
Donc,
aussi.
Il faut que les propositions soient vraiment sérieuses et soient pas des propositions fantasques.
Attends, mon Jean-Louis, on a un certain Marco qui nous appelle.
Avec un accent italien.
Au 32-16. Oui, avec un accent italien.
Bon, on remercie Morgan en tout cas et on l'embrasse, supporter marseillais. Mohamed, merci beaucoup.
Merci à vous, messieurs, pour toutes ces infos.
Évidemment, toutes les évolutions sur rmcsport.fr. Parlons donc de Divorce Club. Ça sort le 14 juillet, et donc, ouais. Michael. C'est ton troisième film comme réalisateur.
Et on a décidé de. À la base, je devais venir vous voir en mars.
Mais oui.
Et puis, je sais pas, il s'est passé un truc qui fait qu'on a dû décaler la sortie. Et voilà, on est content de ressortir maintenant et de donner envie aux gens de retourner de nouveau au cinéma pour aller se marrer et se détendre. Surtout que pendant ce confinement, vous êtes quand même d'accord, il y a eu pas mal de cas de divorce supplémentaires par rapport à d'habitude.
Donc
voilà, on peut peut-être allier l'utile à l'agréable.
C'est pas gentil de parler de la vie de Jean-Louis comme ça, Michael.
Non, ça s'est bien passé
pendant le confinement.
Non, ça s'est bien passé, mais on peut comprendre effectivement que ce soit tendu.
Justement, Michael, pour sortir ce film, c'est pas peut-être un peu tôt après ce déconfinement, parce que pour l'instant, on peut pas dire que tout le monde
est-ce que les gens sont revenus dans le cinéma correctement.
Après, c'est un pari, c'est sûr. C'est un pari et on pense que c'est le bon, parce que c'est la bonne période, parce que les gens ont envie de se marrer et puis parce qu'il faut bien qu'il y ait des locomotives à un moment pour lancer l'histoire.
Donc, tu peux pas le garder sous le coup de trop longtemps.
Et puis il y a de l'argent qui court. Oui. Et puis en septembre il y a 10 000 films. Et puis après en octobre il va y avoir la deuxième vague. Et puis après en novembre il y a avec des champions. Après on s'en sort plus.
Il y a toujours une bonne raison.
Il y a un moment faut y aller. Et nous c'était là.
C'est ton truc de réaliser.
Oui,
je dis que c'est.
Bah, pour parler puisqu'on est avec des joueurs de foot, il y a des joueurs de foot qui ont adoré jouer, mais qui ont pas du tout envie d'entraîner. Réaliser et jouer, c'est un peu la même chose. Réaliser, c'est devenir entraîneur. Et moi, je l'ai toujours un peu été. Déjà à l'époque du morning, quand je mettais en scène les sketchs, etc. J'ai toujours.
Tu les écrivais, tu gérais tout.
Exactement. Donc j'étais déjà un peu en
Là, il était libre à l'époque.
Arrête, arrête, hein. Suffit de me traquer comme ça. Ce que j'ai dit la dernière fois, c'était pas bien. Voilà. En plus, ça a fait le tour de toutes les putaclics et de tous les médias.
Mais t'es dans le Tiffuga, c'est normal, c'est écouté ça.
Je pensais pas, hein. Je peux pas dire ce qui s'est passé, mais mince.
C'est dommage. En revanche, c'est dommage de nous dire à chaque fois.
Mais non, parce que là, c'est ce qui s'est passé, peut-être même plus grave que ce qui a été dit.
Tu t'es fait bomber, menacer. Ah ouais, tu t'es fait bomber. Là.
Et donc alors Payet, c'est génial, il va
recycler.
Il
a. j'en parlerai pas.
Putain, c'est bon. Fou quand même. Et dis-moi donc, il paraît qu'il y a un acteur fabuleux dans ton film qui risque d'avoir un Oscar carrément.
Ah bon ?
Il y a une scène, de 2 minutes, il paraît.
Dans le sex shop.
Oui.
Le patron du sex shop.
Oui, bah moi j'aime bien faire travailler les copains et j'aime beaucoup travailler avec Vincent. Donc il était dans Vive la France, il est aussi dans Divorce Club. Il a été bon, hein, il est pas mauvais hein, sur une demi-heure.
Disons que son temps de jeu est limité.
Ah oui, oui. Il a un peu perdu.
Il est cher pour 2 minutes. Comment tu lui le payes pour 2 minutes?
Je peux pas vous dire ça non plus. Mais en tout cas, il est cher hein, parce que bon, il faut faut payer les faux frais. Il y a eu l'ouragan qui est passé à Saint-Barth.
Et puis au niveau tendance, au niveau bouffe, ça mange.
Ça mange. Je sais, depuis en plus, il s'est acheté un haras là avec 125 chevaux. Si ça bouffe les chevaux, puis le Falcon 9X pour aller en Andorre.
C'est pas un haras, c'est un harem. C'est un harem qui s'est acheté. C'est pas la même chose.
Pour revenir sur le foot, t'es toujours quand même passionné par le PSG. La saison dernière, tu l'as suivi, tu l'as regardé, parce que tu nous disais la dernière fois que tu étais un peu dégoûté par Manchester.
Oui, c'est vrai, mais je suis comme tous les supporters de foot
qui revient à chaque fois.
Je veux plus y toucher, et puis après, il suffit que ça se passe un petit peu bien, qu'il y ait un huitième de finale tronqué sans spectateur avec un but. Tu regardes
et tu reprends goût.
Mais non, je suis malade. J'ai cette maladie. Ouais. J'aime le foot comme vous. C'est-à-dire que tu penses bien qu'après la finale de 2006, je voulais plus regarder un match de l'équipe de France. Et puis, je suis retombé dedans, et tant mieux, heureusement. Heureusement. Donc, ça concerne pas que le PSG, ça concerne le foot en général.
T'as toujours des contacts avec les joueurs du PSG? Ouais.
Diga, c'est infernal.
Ouais, genre, tu sais, c'est Mickaël, c'est Duga qui te vanne, mais c'est pas normal. Non, c'est toi qui lui parle du nombre de buts qu'il a mis contre son camp à Barcelone. Putain. C'est toi. C'est pas possible.
Mince. Non, je vais vous raconter un truc.
Donc,
juste après cette histoire, je vais au match de NBA à Bercy. Et là, je croise juste avant moi, il y a tous les joueurs du PSG qui arrivent, Neymar, Verratti, Mbappé et compagnie. Et il y a un des gars qui les accompagne qui dit: putain, t'as déconné. Heureusement que vous croisez pas, t'as déconné, parce que l'autre, il est vraiment fou sur toi, quoi, vraiment fou. Et donc je suis assis à peu près 15 mètres, 20 mètres des joueurs du PSG. Et là, je vois Kylian Mbappé, que je connais pas personnellement, hein, qui me regarde et qui me fait espèce d'enculé et qui me fait le geste comme ça avec le pouce sur la gorge.
Non.
Moi, je lui dis, mais d'où qu'il vient d'Mbappé? En plus, je peux lui baiser les pieds tellement je l'aime. Le mec, il me dit, espèce d'enculé. Et je lui dis, mais putain, c'est pas possible, cette histoire, ça va beaucoup trop loin. Et j'avais pas calculé qu'assis à ma droite, il y avait Mendy qui était là. Et c'était pas moi qui disais pas de faire enculé. C'était forcément, puisque bon, voilà, le gars est parti à City, ils se connaissent de l'équipe de France, tout ça, ils ont sans doute des doses ensemble. Et moi, je regardais Mbappé. Je lui dis, moi? Mais moi, je t'ai rien fait, moi. Et je vois un autre se foutre ma gueule avec Neymar. Je dis, mais c'est quoi ce cauchemar? C'est pas possible, mon club va pas se retourner contre moi. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai dit qu'il fumait des clopes et qu'il buvait un whisky coca de temps en temps. Merde! C'est un euphémisme en plus! S'il savait!
C'est fou. Ah ouais,
c'est magnifique.
Mec,
je sais pas comment enchaîner derrière ça, mais je vais y arriver. Donc on se souvient de cette fameuse image quand même où t'avais brandi un fumigène. Donc c'était une finale de coupe.
J'en fais des conneries. Quand même.
Pardon, je te les ressors chaque fois.
C'est vrai, t'as plus l'âge maintenant.
Mais là, t'es plus interdit de stade. Ça c'est.
Mais non, ça a duré 4 mois en plus.
Pire que Hazard, le type. Ouais,
ça a duré que 4 mois, ça va.
D'accord, mais tu reviens quand même dans les stades.
Et j'avais un peu contourné le truc parce que j'avais réussi à avoir que j'étais interdit de stade pour les matchs du PSG, mais j'ai donc pu aller voir l'Euro avec l'équipe de France.
Ah oui, d'accord, voilà. C'est bien, ok.
Et le morning live, comme tu as fait le soir, là, ça va revenir ça ou pas? Ou
ouais.
C'était juste one shot?
Si, ça va revenir. Ça va revenir. D'ailleurs, on va en faire une spéciale sportif.
D'accord. Il y aura Verratti d'invité, non?
Non, mais il y aura. Bah non, j'ai dit spécial sportif plus en activité. Les sportifs en activité, ils peuvent pas participer. Donc on invitera des vieux joueurs de foot chauves.
D'accord.
Ah, okay. Alors, il faut s'aller.
Il y en a un paquet à 98. Hein.
Ouais, ça dépend le prix. On va trouver un arrangement.
L'argent. Il n'y a que l'argent. il est si cher que ça, ce Riyad.
Il est fou, ce
mec. Bon, t'as vendu en fou. Plus, là où ailleurs. Il est fou.
Ailleurs?
Non, mais bon, allez, bref.
Non, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'on te pousse un peu.
Ah non, mais les gars, plein de trucs. Ah, pousser à dire des conneries, je vais finir par en dire, je vais les regretter. Alors que je viens toujours ici en ami.
Bon. On a même pas parlé de l'histoire du film. Ouais. Tu peux peut-être nous en parler.
Bah, l'histoire du film, c'est
que moi je raconte très mal.
C'est Arnaud Ducret qui vient de se prendre la pire humiliation de sa vie puisqu'il découvre presque de façon publique que sa femme le trompe. En gros, sa femme avait gardé les micros après une conférence et elle se tape son patron en coulisses. Bref, et donc il est complètement anéanti. Et là, il va retrouver un pote d'enfance qui est joué par François-Xavier de Maison qui va lui dire mais là, bouge pas. Le divorce, c'est la plus belle chose qui pouvait arriver dans la vie. Le divorce, c'est là que la vie commence. Et donc, ça va être un film sur le lâcher prise. Ça va être un film sur ces mecs qui vont créer un club de divorcés, etc., etc. Mais je sais pas si nos deux interlocuteurs, Eric et Christophe, ont vu ça. Mais c'est vrai que la vie commence quand on se sépare, les gars. Dites la vérité.
Tu fais bien le con, c'est vrai, à ce moment-là, pour
ouais, voilà. Et moi, j'ai souvent été ce gars qui téléphone à ses potes et qui lui dit tiens, bouge pas, je vais t'emmener jusqu'au tréfonds de la nuit et tu vas l'oublier, Magali. Bouge pas, tu vas voir.
Du gars.
Oui.
Non, mais c'est surtout que tu on l'a vécu tous des deux côtés. Enfin, je crois, j'espère.
Bien sûr.
C'est-à-dire d'aller aider les potes, et c'était même un prétexte pour s'arracher, qui est dans une mauvaise passe, quoi. Tu vois, chérie, je vais aider mon pote.
Et on est d'accord que dans ces cas-là, ta chérie, elle veut jamais que t'ailles aider ton pote divorcé parce qu'elle sait où il va t'emmener. Que,
ben, oui.
Dans des clubs de striptease à Barcelone.
Notamment.
Walid.
Voire pas aussi loin, tu sais, juste après la frontière, ça suffit.
Ah oui.
Mickaël, tu restes encore avec nous quelques minutes dans Team Duguay. Dans un instant, donc, avec le journal moyen et Adrien Gouin. À tout de suite. Oh là là, là, vous savez que là, alors attention, on est encore à l'antenne, hein, Mickaël. Là.
Donc, je préfère te prévenir. Il peut glisser à tout moment, lui.
Je préfère te prévenir. Alors, on nous envoie pas mal de messages hein, sur les réseaux sociaux. On demande à Mickaël de raconter absolument l'histoire, mais bon, on ne peut pas la raconter. En tout cas, vous tapez Mickaël Youn, Team Duguay, pour avoir le début, au moins. Et vous retrouverez la vidéo de l'époque sur Marco Verratti.
Non, mais je ne vais pas reproduire une erreur que j'ai déjà faite.
Pas du tout. C'est pour ça que je dis allez voir, c'est ancien.
Quelle déception.
Arrête.
Mais non, mais l'homme libre. Que je connaissais.
C'est ça, l'embourgeoisement du gars, c'est ça.
C'est fou, c'est embourgeoisé le type. C'est fou.
Alors, les messages.
Il est plus riche que nous maintenant, tu parles. Facile pour lui.
Du gars, t'énerve pas non plus.
Attends, j'ai des dossiers du gars. Attends, m'enchaîne pas sur l'argent parce que sinon, ça va moucher rouge, comme dit qui tu sais.
Oui, c'est ça, il vaut mieux faire attention. Vous pouvez envoyer vos messages, ta garette, c'est la Direct Studio et 32-16, à tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, c'est le moment de continuer Team Duguay et surtout le moment du journal moyen avec Eric Dimeco, avec Jean-Louis Tour,
oui.
Et surtout Mickaël Youn.
Et oui, notre invité Mickaël Youn qui est là pour la sortie du film Divorce Club.
Le flan Mickaël Youn.
N'y retourne pas.
Parce que je leur ai tout expliqué en antenne. Eux ils savent maintenant.
Après 19h, Dimitri Payet remonte-t-il dans votre estime avec ce nouveau contrat et cette baisse de salaire? On vous détaille tout ça tout à l'heure. Le journal moyen, Adrien.
À la une du journal moyen de Team Duguay, je vais vous raconter tout ce que Mickaël Youn vient de nous dire là pendant la pub. On change, édition spéciale. Les fans de Liverpool ne touchent plus terre. Ils sont contents, les fans de Liverpool. Duguay, on prend des nouvelles. Ton ancien club, le Milan AC, il réfléchirait à retirer ton numéro ou pas.
Ah bon?
Et puis, non, c'est pas vrai.
Non,
et puis, l'histoire d'un joueur de foot qui aime bien s'amuser la nuit en boîte de nuit. Vous êtes prêts, les amis?
Oui. Je le connais certainement, mais je vais fermer ma gueule.
Fred Hermel, notre correspondant à Madrid, est avec nous. Juste une seconde. Tu as vu la talonnade de Benzema hier à Barcelone, Fred? Apparemment, il l'a vu, Fred. Notre correspondant à Madrid qui a tweeté hier. Karim est en ce moment le meilleur joueur du monde.
Oui, voilà, il sera avec nous tout à l'heure.
On vous en parlera à 19h30. Je pense qu'il va vous répéter pendant 10 minutes sans s'arrêter.
C'est sûr.
Vous écoutez RMC, c'est le 344e journal moyen de l'histoire de Team Duga.
En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Team Duga.
Adrien Aigouin.
Justement, Duga dans Team Duga. Nouvelle petite expression mignonne jeudi sur RMC. J'ai écouté ton émission, c'est sympa, Christophe. Benzema, merci. Sous les ordres de Zidane ou sous autre chose, Duga.
Mais ce qui s'est passé notamment avec Benzema, on se rencontre aujourd'hui et on se rencontre avec, sous la coupelle de Zizou.
Oh, la petite coupelle, sous la petite coupelle. Oui, c'est une coupelle. Ouais. Tu mets des petites salades de fruits dedans, c'est magnifique, ouais, c'est raté. C'est, raté. C'est bientôt terminé. 15 jours, Duga.
Vous laissez rien passer.
Rien.
Alors que le gars s'en va, un peu de pitié quand même.
Non, justement, il a tout.
Il a plus rien, il a plus rien.
On profite de sa présence.
Il me marche dessus.
Sa transition, c'est fait. Liverpool est donc champion d'Angleterre 30 ans après le dernier titre. Les fans du club dans le monde entier sont émus et rendent hommage aux hommes de Jürgen Klopp. Un fan a même pris sa clarinette. Bel instrument, la clarinette. Il porte le maillot de Liverpool et sur Twitter, il publie cette vidéo. Il est en train de jouer You'll Never Walk Alone. Que tu reconnais cette air de clarinette du gars, You'll Never Walk Alone. Est-ce que tu reconnais le style? Tu le connais très bien. Tu as vécu avec lui,
Manu Petit,
pendant de nombreuses années. C'est pas la clarinette de Manu Petit, non. C'est la clarinette de Manu Petit.
Non, elle le signe, elle sonne plus fort que ça.
Il porte le maillot de Liverpool, il est français. Tu as quasiment vécu avec lui.
Oui,
tu as commenté avec lui, du gars.
Il est fan de Liverpool.
Ah, Grégoire Margoton.
Grégoire Margoton, le commentateur star de TF1.
Ah, il est tombé bien bas.
Ouais, mais. On avait dit qu'on fâchait pas du gars.
Ouais. Il n'est pas très à l'aise en clarinette, je trouve. Il est bon, mais il n'est pas non plus. C'est pas délié, quoi.
Tu fais mieux ?
Non, mais il est meilleur en commentaire, Grégoire.
Ouais, mais bon, il joue de la clarinette. C'est un joli hommage, je trouve.
Ouais, joli. Fan total, hein. Vous le suivez sur Twitter. Il ne fait que ça. Il parle de Liverpool tout le temps. Sans transition, direction. La ville de la mode, Milan. Le Milan AC a battu l'AS Roma 2-0. Un rendez-vous toujours mythique. Normalement, on devrait avoir l'hymne du Milan AC pour mettre un peu d'ambiance, mais l'hymne du Milan AC,
du Milan. Du gars va chanter.
Sur la télé italienne, c'était Gold, Tiziano Crudeli. Vous connaissez Tiziano Crudeli, 77 ans, une magnifique moustache, journaliste très connu en Italie, supporter de l'AC Milan. Oui. Il commente le match, match dont sa chaîne n'a pas les droits télé. Donc la caméra est sur lui. Il commente comme à la radio. On voit pas le match. But de Ante Rebic pour le Milan AC hier en toute sobriété.
Ah, je crois qu'il y a un problème.
Vas-y, mon.
J'ai peur que toute la machine soit en grève.
Eh bien, Jean-Louis Tour, en italien, non. Tu vas me commenter le but
de. Non, c'est de Milano! Et non, c'est de Milano! Oui, Milano! Ici, porco mio!
On a le vrai là!
Avec Mickaël, c'était mieux.
Ah, c'était mieux avec Mickaël.
Ah ouais.
Il y a un autre but célèbre. Souvenez-vous, en septembre dernier, il réclamait le but de Piatek, qu'il surnomme en Italie Pio. Il réclame le but. Le but va-t-il arriver?
Pio.
Toujours pas marqué.
Pio. Et la gueule! Pio.
Le but, c'est qu'il chambre ses collègues qui sont supporters des autres clubs. C'est un phénomène.
Grégoire Margoton est beaucoup plus calme.
Tiziano Crudeli, commentateur très populaire en Italie, 77 ans. C'est un peu leur Jeannot Rességué à eux. Sans transition. Direction pour conclure. Alors là, on prend la direction du monde du quotidien de l'ancien joueur Wesley Sneijder. Vice-champion du monde qui publie une autobiographie, Sneijder, grand joueur. La presse locale publie aux Pays-Bas les bonnes feuilles en ce moment. Il évoque son passage notamment au Real Madrid en 2007-2009. Il dit « J'étais jeune et j'ai aimé le succès et la gloire. Cela s'est mal passé plus tard. Pas de drogue, hein, mais des boissons et du rock'n'roll. Je m'y suis habitué en tant que star du Real Madrid. Tu es vénéré comme un vrai dieu. Et je peux dire que je n'ai pas résisté. Je ne savais tout simplement pas que la vodka était devenue ma meilleure amie. » Robben, Van Nistelrooy m'ont prévenu que je ne durerais pas si je continuais. J'ai plutôt bien joué, mais je pouvais encore faire beaucoup mieux. Il l'a dit, j'aurais pu jouer comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, mais j'aimais boire un petit verre de temps en temps. Mon attitude était indigne du Real. Je me suis menti en me disant que ça allait bien et j'ai tenu bon grâce à mon intelligence de jeu, mais j'ai complètement coulé. physiquement, la vodka était devenue ma meilleure amie. Wow. C'est la phrase de Snyder. Bizarre, on l'a vu sur une image il n'y a pas longtemps, bah, je crois que c'était à la Coupe du Monde,
oui,
dans une tribune, il était un peu enrobé, il avait un petit verre à la main.
Gonflé, l'alcool, hein.
Il se lâche un peu, Snyder, et il révèle tout dans une autobiographie qui fait beaucoup parler aux Pays-Bas. Il dit toute la vérité, Snyder.
Merci Adrien pour ce journal moyen.
À demain.
Mickaël, merci beaucoup.
Merci, c'était un plaisir.
Quel plaisir.
On n'a pas toujours un moment aujourd'hui.
Ah ouais.
Ça, on ne sait pas, on le sait le lendemain. Mais normalement, c'est bon.
Ouais, vu que c'est la dernière fois qu'on se voit, je t'embrasse fort, mon poulet.
Eh ben oui, parce que ça y est, c'est fini.
Merci d'être toujours disponible. Vous croiser, tu vas pas mourir, du gars, quand même.
Ouais, on sait même pas dans quel pays il va aller vivre.
On fréquentera plus les mêmes endroits, ça y est, moi, ça y est.
Il cherche toujours, l'amour, du gars, quand même.
Ah, ça, je ne sais pas. J'ai jamais eu le droit d'en parler, moi, donc je ne sais pas.
Voilà, j'en parle. Des sujets sensibles.
Merci, je vous embrasse. Je rappelle, Divorce Club, donc, le 14 juillet au cinéma. Allez voir, troisième film réalisé par Mickaël Youn. Eric, merci également. Ciao Eric. Oui, Mickaël, vas-y.
Parce que c'est pas seulement moi qui dis que c'est un beau film. Hein. On a pris deux récompenses à l'Alpe d'Huez, le grand prix de la meilleure comédie et le prix de la presse.
Très
bien. C'est pas n'importe quoi.
Et non, c'est pas rien.
On va aller voir ça.
Bravo. Merci Mickaël Youn. Dans un instant, Dimitri Payet, donc, remonte-t-il dans votre estime? 32-16 pour en débattre tout de suite.
RMC, 18h-20h. Tim Dugas. RMC, 18h-20h. Tim Dugas. Jean-Louis Tour. Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h03, nous continuons Team Dugas pour la deuxième heure avec Jean-Louis Tour toujours en place.
Bien sûr.
Nous accueillons Gilbert Bribois, nous accueillons Emmanuel Petit et nous accueillons Julien Cazard. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Salut tout le monde.
Alors on y va pour cette deuxième. Alors,
j'ai appris que l'alcool faisait gonfler ou quoi, c'était de conneries. Et Wesley Snyder, il sait pas boire, c'est tout. Hein. Si tu sais boire, normalement, c'est bon, ça arrive directement dans le sang. Et hop, nickel.
Ça dépend ce que tu bois.
Merci, très bon conseil.
Ouais. Ah ben moi je mets en intraveineuse, hein. Faut surtout pas boire par la bouche. Directement en pause.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut boire avec modération, etc. etc. On vous remercie.
Faut boire avec des copains surtout.
Ouais, avec modération.
Dans cette deuxième heure, le blind test tout à l'heure. Et puis donc, on va se rappeler certains bons souvenirs que l'on a passés ensemble pendant 4 ans, Dugas. On va refaire pendant les 2 semaines qui viennent des débats qui ont fait le succès de
4
Dugas.
Ans déjà ?
Mais bien sûr.
Incroyable.
La fin de la 4e année.
Vite, hein.
Ah ouais. Que de débats formidables, hein, qu'on va pouvoir refaire donc pendant 2 semaines. Et on va se poser la question tout à l'heure à 19h30. Didier Deschamps a-t-il vraiment pris l'équipe de France en otage?
Oh merde.
J'aime beaucoup
le rapport à quoi
l'intitulé. Ah, ce qu'avait dit Dugas avant la Coupe du Monde 2018 sur le cas Benzema.
Et... Mais vous êtes vraiment des vicelards en fait.
Mais quoi,
Benzema, ils fait adorent. Une passe décisive de dingue hier soir. Donc oui. Là aujourd'hui, vous faites ce débat.
Ouais. Ah bah attends,
c'est vraiment des vicelards.
Alors, on attend pas que ça. Je ne permets pas cette insulte. Déjà, hein, je suis père de famille. Mais à 19h30, on va revenir sur ce qu'a fait Benzema hier, évidemment. Et en parallèle, on reviendra sur ce débat. Et tous les jours, on fera ça. On reprendra un débat. On fera les récompenses individuelles. On fera l'OM et son centre de formation. On fera Totti est-il une légende du foot. Voilà, on fera tous ces débats.
Il a retrouvé sa montre.
Parler. Qui?
Totti.
Il n'avait plus de montre.
Bah, il a perdu sa montre fétiche depuis.
Il a perdu sa Rolex.
Une Rolex gravée, je crois, avec deux initiales de ses enfants. Et,
il y en a qui ont des problèmes. Hein.
Il, quand même des... Non, mais... il offre une prime apparemment incroyable.
Cette histoire.
Ouais, ouais. Si, il a perdu sa Rolex et donc il a publié des messages sur les réseaux sociaux en disant aidez-moi, j'ai pas
d'accord. Moi franchement, j'achète une Rolex, je lui grave le nom de ses gosses et c'est fait. Il va pas me s'emmerder 2 heures. Si c'est que ça.
Écoute. J'ai l'impression que c'est sentimental. Bon, on en parlera tout à l'heure à 19h30. Fred Hermel sera avec nous également. Tout de suite, Dimitri Payet. Donc, samedi, on a appris qu'il prolongeait son contrat jusqu'en 2024 à Marseille. Il aura 37 ans. Oui, il se marre déjà, lui.
Non, mais les génies, ça n'a pas d'âge. Ça vieillit pas.
Et c'est vrai. Ah, bah, d'ailleurs, on pourra le refaire aussi, ce débat. Payet, le génie du foot. Donc, Payet souhaitait être Marseillais à vie, a-t-il dit à Jacques-Henri Hérault, son président. Du coup, ils ont trouvé cette idée de prolongation de contrat. Il aura un projet de reconversion au club. Mais surtout, il a accepté de diviser par 2 son salaire pour la saison prochaine, de diminuer de 30% la saison suivante, puis encore lors des 2 saisons suivantes. Il a donc, par ailleurs, renoncé à des primes de qualification pour la Coupe d'Europe. En gros, il va lisser ce qu'il aurait dû toucher sur 2 ans, sur les 4 prochaines saisons. À l'arrivée, il fait quand même un effort pour les années à venir. Alors, est-ce qu'il remonte dans votre estime, notamment après avoir refusé de baisser son salaire? On lui était beaucoup tombé dessus lorsqu'il avait dit qu'il avait des crédits à payer, une famille à mettre à l'abri. 32-16, appelez-nous pour en débattre. Dugas.
Après, non mais après,
merci pour cet avis.
Non mais sincèrement, je l'avais dit dès le départ. Chacun fait comme il veut. S'il a envie de baisser son salaire ou pas baisser son salaire, j'avais pas envie de rentrer sur ce sujet-là. Après, voilà, c'est personnel. Je trouvais que c'était naze de parler de ça. Après, on en est venu à en parler parce qu'il a expliqué qu'il baisserait pas son salaire parce qu'il avait des crédits à rembourser. Donc, je trouvais que sur la forme, c'était totalement ridicule de dire ça. Mais sur le fond, j'ai pas envie de juger s'il estime que c'est mieux de continuer à l'OM 4 ans et de lisser son salaire. Écoute, c'est son problème. C'est pas pour ça qu'il va remonter plus dans mon estime. Je sais pas, pour moi, ça n'a pas de coïncidence. Après, j'imagine que s'il a fait ça, c'est que ça satisfait l'OM. J'espère qu'il a pas fait ça pour remonter dans l'estime des supporters et du reste et de ci et de là. Enfin, j'en sais rien. Quel est le but de cette chose-là?
Est-ce qu'on n'est pas le seul pays au monde où on peut se poser la question si tu remontes dans l'estime de quelqu'un quand tu baisses ton salaire?
Ouais, c'est quand même un délire.
Ah, t'as vu Bernard, il a frappé son ex. Oui, mais il a baissé son salaire. Ah. Bon ben ça va, il remonte dans mon estime. Non, mais c'est quoi ce concept? Ça n'a aucun sens. Bah,
il fait ce qu'il fait. J'ai rien à dire.
Baisser son salaire, il y a qu'en France que ça fait monter dans l'estime de quelqu'un. Moi, il y en a, c'est, tu vois, je sais pas, c'est, tu sauves des vies, tu marques un triplé. Lui, il baisse son salaire, il remonte dans l'estime.
La démarche derrière, c'est pour aider le club, c'est en pensant aux supporters.
Non,
ça
non,
va
c'est
un
rien,
peu plus loin.
Est-ce que t'es sûr que c'est ça?
Lorsque le club lui avait demandé de baisser son salaire, c'était ça l'idée. Le club traverse une période de crise, demande un effort à tous ses salariés.
Alors, qu'est-ce
qui
s'est passé entre les deux?
Les joueurs ont refusé. Et là, c'était un autre dossier, celui de la prolongation de contrat.
Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux alors?
Tout le monde voit son, il a vu son compte, il a trouvé son compte. C'est-à-dire que l'OM arrive à baisser le salaire de Payet immédiatement. C'est-à-dire que la saison prochaine, il ne touchera plus les 500 000 par mois, mais la moitié. Et Payet, il a un contrat assuré pendant 4 ans.
30%
en moins. Non, la prochaine, 50% en moins.
50, d'accord.
Et après, ça passera à 30.
D'accord.
Donc, Payet, il a un contrat assuré pendant les 4 ans qui viennent. C'est-à-dire que l'argent qu'il devait toucher à l'issue des 2 ans, il les touchera à l'issue des 4 ans. Et l'OM, ils ont une baisse sur la masse salariale, ce qui est important pour les comptes du club.
Donc, en train de dire qu'il ne perd pas d'argent, en fait.
Payet ?
Bah oui.
Bah non. Oui, oui et non. Il aurait pu finir ses 2 ans de contrat.
Il rallonge de 2 ans, mais en fait, il ne perd pas d'argent.
Il aurait pu finir ses 2 ans de contrat aux conditions actuelles, sans baisser son salaire, et espérer un nouveau contrat derrière, à 35 ans. Et là, il aurait gagné plus.
Oui, dans les mêmes conditions.
Non, pas dans les mêmes conditions. Mais même en baissant un peu, il aurait été plus gagnant qu'actuellement. Oui, Gilbert?
Moi, mon point de vue, c'est que c'est un énorme coup de com'. Donc, en gros, il aurait touché 12 millions sur 2 ans. Là, il va toucher 13 millions 2 sur 4 ans.
Oui,
donc, en fait, ça arrange l'OM. Lui, ça l'arrange parce qu'il s'achète la paix avec son club, qui va pas tenter de le vendre dès cet hiver pour se débarrasser d'un gros salaire, ou en juin prochain pour se débarrasser d'un gros salaire, ou dans un an et demi pour se débarrasser d'un gros salaire. Voilà, il a une lisibilité tranquille sur 4 ans. Bon, il s'achète en plus une crédibilité avec les supporters qui vont dire « Oh, regardez, oh, magnifique et tout !»
Excuse-moi, Payet, il a 33 ans, c'est-à-dire que Payet va jouer au foot jusqu'à 37 ans.
Oui, c'est ça. Franchement, du gars, un contrat comme ça, mais tout le monde le signe dès demain quand t'es footballeur à 33 ans.
Il fait vous ne voyez pas l'arnaque, c'est dans 2 ans.
Extraordinaire et
il est vendu 5 millions au Qatar. Dans 2 ans, il est vendu 5 millions au Qatar et tout le monde est gagnant et lui, il reprend un gros salaire derrière.
Ou en Chine.
Franchement, ben oui. À 35 ans, il va être cramoise en Ligue 1.
Ça, c'est pas son intérêt.
Mais s'il a un plus gros salaire ailleurs, s'il refait bascule encore.
Dans ce cas, il a fait une erreur en prolongeant son contrat. Il aurait resté avec ses 2 ans à 500 000. Et à la fin
mais parce qu'il a envie quand même de faire la Ligue des Champions. Il aime un peu le foot quand même.
Attends, Gilbert. Julien, ça n'empêche pas. Il aurait pu faire ses 2 ans au salaire actuel. Et ensuite partir au Qatar.
Oui, mais comme dit Gilbert, au bout d'un an, il y aurait eu une ambiance de merde. Au bout d'un an, il y aurait eu une ambiance de merde à l'OM.
Donc s'il y a la reconversion, c'est qu'il n'a pas pour intérêt, il n'a pas pour envie de partir au Qatar.
La reconversion du gars, moi, excuse-moi, j'attends de voir ce qui va se passer parce que c'est bien joli de promettre des reconversions 4 ans avant à quelqu'un.
Ce sera même plus Jacques Henriot le président.
Voilà, peut-être que ce sera même plus le même propriétaire. Tu sais, fais Payet pour faire quoi? Peut-être que lui-même ne sait même pas ce qu'il veut faire.
Recruteur.
Et est-ce qu'il serait bon pour être coteur? Tu le sais pas. Est-ce qu'il serait bon pour être entraîneur?
Cuisto.
Tu le sais pas. Est-ce qu'il serait bon pour être cuisto? Tu le sais pas. Ça, c'est les promesses un peu en l'air, en fait, parce que finalement, combien de fois t'as eu des mecs qui sont
allés en ambassadeur,
truc mûche?
Rio Mavouba.
Au final, rien.
Rio Mavouba à Lille, on lui a promis d'avoir un projet de reconversion qui reviendrait au club après une dernière année, je ne sais plus où. Et à l'arrivée, rien.
Bah voilà.
Donc, effectivement, ce n'est pas tout le temps facile.
Paoletto au PSG, on les avait vendus. Vous allez voir, il va faire plein de trucs. Il n'a rien fait du tout.
Oui, il, bah si, il a été ambassadeur.
Bah, super. Alors, quand on dit ambassadeur, c'est que tu fais rien, en fait. Hein. C'est ça le principe, hein, Julien. Ça
bon, exactement. Mais moi, je veux bien être payé à rien foutre. Être ambassadeur, ça me plairait. Hein.
Manu, bah, je suis déjà le cas, je te signale.
Ah oui, c'est vrai.
Manu, comment tu vois les choses? Alors,
moi, pour répondre à ta question initiale, oui, est-ce qu'il est remonté dans mon estime? Non, parce qu'il n'est jamais descendu. Parce qu'en fait, déjà, quand la polémique est née, il y a quelques semaines, par rapport au fait qu'il ne voulait pas baisser son salaire en pleine pandémie et les difficultés de son club, Duga l'a dit, mais je vais en rajouter une couche. On est dans un pays où on est toujours prompt à donner des bons conseils aux autres par rapport à l'argent qu'ils gagnent et jamais à se l'appliquer à soi-même. Donc, on sait que l'argent est un sujet extrêmement sensible en France et qu'il faut surtout pas en parler, surtout quand ça concerne soi-même. Donc, il a le droit de faire ce qu'il veut avec son pognon. Il a signé un contrat. Après la pandémie, regarde, ça a frappé le monde entier. Ça a bouleversé un nombre incalculable de secteurs d'activité économique. Donc, le football, encore une fois, on était en première ligne. Vous devriez faire ça.
Il y a beaucoup de joueurs à l'étranger qui ont fait des efforts.
Il y a beaucoup de joueurs dans l'Europe du football qui ont été extrêmement généreux pour la population. La plupart n'en ont pas parlé. Donc, les médias n'en ont pas parlé non plus. La preuve, à chaque fois que les médias parlent d'un joueur de foot et en ce qui concerne l'argent, c'est toujours sur des mauvais messages à envoyer en permanence. Toujours pour essayer de grossir à la loupe ce qu'on ne voit pas derrière. Donc moi, quelque part, je me dis non, il n'est pas descendu de mon estime parce qu'il est toujours resté le même. Moi, je trouve que globalement, il a toujours une bonne image de Dimitri Payet et que finalement, il a bien mené sa carrière. J'étais plus déçu lorsqu'il est parti de West Ham que lorsqu'il a refusé de baisser son salaire pour Marseille.
Oui. Le malheur de Payet, au-delà de l'argent, okay, moi, je trouve que c'est un bon joueur, hein, mais vous savez que ce gars-là n'a rien gagné. C'est terrible.
Ah oui,
palmarès, Manu, il a gagné la Coupe de la Réunion.
Ah oui, bah,
c'est terrible, c'est des fois t'as pas de chance en fait. C'est que tu tombes pas dans le bon club au bon moment.
Oui, mais alors ça, est-ce que c'est vraiment pas de chance?
L'Europa League?
Est-ce qu'une carrière de footballeur, c'est une carrière réussie parce que t'as joué tant d'années ou alors parce que t'as gagné tant d'argent ou est-ce que c'est parce que t'as eu un palmarès? Je sais pas. Je pose la question.
Les deux, il y a des très bons joueurs qui ont pas gagné grand chose, comme des bons entraîneurs qui n'ont rien gagné non plus.
Hein, Gilbert, tu sais surpris du nombre de joueurs que j'ai rencontrés dans ma carrière qui se foutent royalement d'avoir un palmarès sportif à partir du moment où leur compte en banque était rempli.
Quoi. Merci pour ton honnêteté.
Ah oui, alors ça, c'est le côté compte en banque.
Ah, mais... l'honnêteté, c'est les noms. Les noms.
Il faut des noms.
C'est vrai que c'est intéressant. Il y a aussi des joueurs qui ont un beau palmarès sans avoir fait une grande carrière.
Ah oui, allez, bam. Alors, juste avant qu'ils partent, sympa pour Duga. Ça, c'est vraiment affreux, quoi. Mais c'est terrible, hein. On peut pas te laisser tranquille, quoi.
Ce qui est terrible, c'est qu'un humoriste comme toi se réfugie derrière moi pour cette vanne.
Un pseudo humoriste, un pseudo.
Il pourrait assumer tout seul.
C'est la lâcheté, c'est un art, hein.
Oui. C'est vrai. Bon, et alors juste sportivement, de se dire qu'on signe, que Payet va rester jusqu'à 37 ans à l'OM, ça vous choque?
Moi, je me dis bonne chance pour lui, parce que le physique et lui, ça a toujours été une équation qui était un peu compliquée la plupart du temps. Donc on sait que c'est un garçon qui a besoin d'être toujours dans une bonne condition physique pour faire parler ses qualités sur le terrain. Pour moi, c'est surtout si tu te projettes dans les mois, dans les semaines à venir du côté Olympique Lyonnais, qui sait si Macourt va pas vendre son club dans les prochains mois. Donc ça peut très bien être remis en question tout ça. Donc quelque part, il y a quand même beaucoup d'incertitudes aujourd'hui qui entourent le projet de l'OM, quoi. Et avec Payet dedans, quoi.
Oui, ça c'est sûr.
Moi, je pense que l'agent de Payet est très fort. Faut le féliciter. Je ne sais pas qui c'est. Mais enfin, avoir fait cette proposition arrangeante pour le joueur et acceptée par le club.
Non, Gilbert, bien sûr. C'est l'agent de Braithwaite qui est très fort. Jean de Payet, il est pas mal.
Loïc nous rejoint au 32-16. Salut Loïc, bienvenue dans Team Duga.
Salut Mathieu.
Salut Loïc. Bon, en tant que supporter de l'OM, t'es content d'avoir Payet encore 4 ans chez toi?
Content, à condition d'avoir un Payet au milieu de sa forme. Parce qu'on sait que quand physiquement il est en forme, la qualité technique est liée. Donc après le problème c'est que quand physiquement il commence à être dans le dur, on défend plus qu'à 10. Donc c'est compliqué.
Ouais. Après c'est un joueur qui est capable, qui a du coffre, qui a carrément. Il est capable de courir et d'enchaîner. Hein.
Ouais, mais justement il faut qu'il enchaîne après. Après il a pas eu de chance quand il revient de sa suspension. Il prend 3-4 matchs suspension, un truc comme ça. Après il y a la trêve internationale, il a du mal à enchaîner, mais on sait que quand il enchaîne des matchs et que physiquement il est prêt, c'est un excellent joueur. Après est-ce qu'il va avoir un objectif de l'Euro l'année prochaine? Ce serait bien, ce serait un leitmotiv pour se donner un peu plus. Et après le coût de baisser son salaire sur les années à venir, je trouve ça louable, à condition que ce soit pour de vraies bonnes raisons. pas pour s'acheter la paix sociale, pas pour dire, regardez, moi je fais des efforts et les autres, hein, font rien. Sachant qu'au début du Covid, il n'a pas voulu baisser son salaire parce qu'il avait des traites à payer, comme nous tous, d'ailleurs.
Oui, alors là-dessus, Loïc, effectivement, on m'interpelle sur Twitter, donc je le dis quand même, il l'a dit dans sa conférence de presse samedi, lui, il est la tête de 3 sociétés, il y en a une qui a dû fermer, et donc baisser son salaire, ça voulait dire aussi peut-être fragiliser ses sociétés. Donc,
ah
voilà.
Oui, tout à fait. Enfin, voilà, je veux dire, quand on touche un joli salaire, certainement il ne met pas tous les mêmes œufs dans le même panier, ce qui est judicieux, parce qu'après, quand tu arrives à la fin, ben, peut-être tu t'es tout fait bouffer. Voilà, maintenant, il faut que ce soit des choses cohérentes, et parce qu'il ne faut pas qu'il oublie qu'au stade, c'est des mecs qui touchent le SMIC, hein, qui vont l'encourager, c'est des mecs qui touchent le SMIC, qui achètent les maillots pour les minots à Noël, et ainsi de suite, donc... Peut-être on est dans deux mondes différents, le monde du football et nous, le restant du peuple. Quoi.
Merci Loïc d'être venu au 32-16. Tu reviens quand tu
Bonne
veux,
soirée.
Bien sûr, pour parler
Bonne
de l'OM.
Loïc.
On a parlé à 18h du dossier vente de l'OM et des avances faites par Mourad Boudjelal et le repreneur franco-tunisien qui vit avec lui. Je voulais juste votre avis sur le dossier Manu et Gilbert. Manu, comment tu vois les choses?
Moi, j'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien. Moi, je suis pour ce genre de personnage charismatique, un peu trublion, qui a un peu bouleversé les codes, un peu bien défini. On a bien vu encore pendant la période de pandémie que c'était un peu la cacophonie au sein de la gouvernance française. Donc, on a vu ce qu'il était capable de faire dans le rugby à Toulon. Après, ça me rappelle un petit peu des présidents, hein, qui c'est un peu avec de la gouaille, avec de la personnalité.
Un peu à l'ancienne.
Oui, un peu Louis Nicolin, des Bernard Tapie, ce genre de profil. Ça manque quand même cruellement dans le paysage français. Donc ça vient un petit peu déstabiliser un petit peu l'ordre établi. Donc
moi, à la différence près que eux, puis, c'était leur argent, ce que tu cites. Il y a là, ça. Ce serait pas le cas.
Oui, mais en même temps, il a les compétences. Il l'a fait déjà dans le rugby. Il a gagné des coupes d'Europe avec Toulon. Derrière, tu sens que en plus d'être un entrepreneur, c'est un garçon qui est passionné aussi par le sport et notamment le football. Donc ces deux données qui sont indispensables pour réussir dans le football. Mais c'est surtout un chef d'entreprise qui a quand même les pieds sur terre, même s'il a une personnalité qui dérange. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, pour nous, médiatiquement.
Sauf que, excuse-moi, la différence, c'est qu'un milliardaire au rugby, c'est un smicard au foot, hein. C'est-à-dire qu'il va changer de... Là, c'est fini, là. Avec son argent, il arrivait, il pouvait acheter les meilleurs joueurs du monde au rugby, mais là, au foot, il peut s'acheter les mecs du Mans, quoi.
Ça, c'est sûr que c'est différent. Mais la différence, c'est qu'à Toulon, c'était son argent, et là, il viendrait avec des investisseurs qui, eux, auraient les moyens d'acheter.
Bah, t'es au courant que, je sais pas, le fair play financier a disparu? Je suis pas au courant, moi.
Bah, disons qu'il
y a... Tu peux arriver mettre de l'oseille?
Ah mais là, c'est pour acheter des joueurs. C'est différent.
Ah oui, mais tu vas acheter cher des parts d'un club, mais tu peux pas mettre des centaines de millions dans les transferts, sinon le Qatar, il le ferait, les gars.
Ça, c'est autre chose.
Non, mais tu peux commencer déjà à éponger les dettes.
Oui, bah voilà. Tu peux déjà relancer le club. Voilà.
Mais je veux dire, faut pas s'enflammer. Il y a les mecs qui rêvent, mais même si le mec, il veut mettre 500 millions pour acheter les joueurs, il peut pas.
Oui, oui, quand le club est en Coupe d'Europe, bien sûr, oui.
C'est
financier, c'est un peu assoupli quand même. Mais bon,
assoupli.
Gilbert, ce qui serait bien, c'est que médiatiquement, en tout cas, nous, on se régalerait.
Nous, on se régalerait. Moi, j'aimerais bien, effectivement, la perspective de Boudjelal face au PSG, Boudjelal face à Jean-Michel Aulas.
Ça va être énorme.
Là, ça peut être énorme.
Puis Marseille avec des moyens aussi qui peut réaliser.
Attention, je me méfie parce que vous savez, l'OM est le club qui draine le plus de mythos depuis le début de son histoire. Jack Cashcar. Rappelez-vous l'histoire des Bolivars avec des corps. Ce qui voulait racheter l'OM à l'époque avec de l'argent vénézuélien dans les années 80. Eric Dimeco nous avait raconté ça, une histoire incroyable. Bref, attention, comme le dit Jean-Louis, Boudjelal ne serait pas le propriétaire du club. Boudjelal, il a quand même la capacité à s'engueuler avec la terre entière au bout de 15 jours. Rappelez-vous, quand il était dans le rugby, il était en guerre avec tout le monde, la Fédé, la Ligue, les autres clubs. Bref, c'était terrible.
Il y avait des résultats, Gilbert.
Il a eu des résultats, mais là, Boudjelal ne serait pas le propriétaire. Les rapports avec le propriétaire. Franchement, tu donnes combien de temps avant que ce soit compliqué? Très franchement, moi je...
Mais Marseille a toujours été un club relativement instable. Donc moi, vu sa personnalité, il est quand même bon.
Non, après,
ça collerait parfaitement.
Que lui vienne dans le foot, c'est top. Mais ce serait mieux qu'il soit propriétaire, en fait.
C'est un milliardaire tunisien qui vient d'Arabie Saoudite. C'est pas Ben Ali quand même qui revient dans le game. Non, c'est pas lui. Ce serait génial.
D'ailleurs, vous avez cité les présidents à l'ancienne et tout. Boudjelal, il a cité en exemple Bernard Tapie tout à l'heure dans le Super Moscato Show. En disant quand il a pris l'OM, c'était un peu de la même façon.
Il est très fort en com, en fait.
Ouais,
il faut qu'il fasse gaffe parce qu'à Marseille, tu peux te reprendre le bâton dans la tronche. Hein.
C'est vrai, sur la com, si tu te rates un peu.
Ouais. Ah bah là.
Dans un instant, messieurs, Karim Benzema. Donc, on revient sur son match d'hier, la fameuse talonnade. Et puis, on revient sur ce débat du 29 mai 2018 que l'on refait dans Team Dugas tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Team Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h24, Team Duga continue avec Gilbert Bribois, Emmanuel Petit, Julien Cazard, Jean-Louis Tours. Ça va être le moment de revenir sur un débat qui a chauffé il y a quelques mois de ça.
Exactement, alors il y aura le blind test également, hein, 32-16 pour vous inscrire. Et avant ce débat, on va quand même accueillir Fred Hermel qui participera aussi au débat puisqu'on va parler de Karim Benzema. Fred, bonsoir.
Hola chicos.
Salut. Pas quand même.
Attends, refais-nous hola chicos parce que t'étais fermé au début.
Non mais je commence déjà, mais pourquoi quand même Fred Hermel? T'as un doute? Hola chicos. On est obligé, vous comprendez? Enfin, c'est, tu vois.
Bah, c'est inévitable. Quand Benzema fait un truc comme il a fait hier, forcément il y a Fred Hermel sur RMC.
Non mais c'est le quand même qui m'a, je sais pas, c'est, je sais pas.
C'est susceptible.
Ouais, c'est ça, c'est la chaleur, je suis la chambre.
Quand même. Quand même,
je suis susceptible. Alors, hola chicos.
Avant de refaire donc ce débat sur Benzema, ce débat qui a malheureusement scellé une amitié de longue date entre Duga et Didier Deschamps. Et bien, on va revenir sur ce qui s'est passé hier. Donc, on va en dire un mot. Benzema, donc, j'allais dire buteur, non, mais qui fait quand même le geste décisif lors de la victoire du Real sur le terrain de l'Espagnol Barcelone 1-0. Ouais, là, Duga, on y est. Hein.
Ouais. Ouais, là, c'est pas décisif.
Ouais, c'est pas Jérôme Bretagne qui décale le ballon sur un coup franc direct. Quoi.
Voilà, t'as compris.
Non mais là, ça t'a, là du gars, tu t'es, je sais pas si t'as vu le match en direct, mais
oui,
là,
oui,
tu te lèves, là.
Regardé ça en... Ah non, mais j'ai trouvé ça incroyable. Il a inventé une passe. Enfin, c'était extraordinaire. Puis ce ballon qui arrive parfaitement pour Casemiro, qui a plus qu'à le pousser dans les buts. C'est sur
il est, ça va vite en plus.
Non mais il est dos au but. Le ballon qui l'hérite, il sert à rien. Arrive à le transformer en quelque chose d'efficace et décisif. Enfin, c'est magique.
Tu sais ce que j'aime bien, moi, dans ce but-là, en dehors du geste de génie de Karim Benzema, c'est le fait que Casemiro sait qu'il peut la donner à ce moment-là.
C'est ça, moi. Ouais, faut le sentir le coup quand même. Hein.
Voilà.
Non mais c'est vachement important ce que tu dis, Manu, parce que c'est exactement ce qu'a dit Casemiro après le match.
Ah oui.
Casemiro a dit bah mais je savais que Karim était capable d'inventer un truc dingue, donc je me suis présenté comme si le ballon allait venir quoi qu'il arrive.
Faut se mettre Karim Benzema quand il est coincé le long de la ligne, il invente des choses, il est capable.
Hein. Oui, tu penses à l'Atlético là.
Oui.
Je trouve que le geste de l'Atlético est encore plus fort. C'était demi-finale de Ligue des Champions que celui d'hier soir, quoi. Et l'importance quand même là. Le Real a gagné 15-0, donc c'est un match compliqué chez le dernier qui jouait ses derniers espoirs de rester en première division.
Fred, quand tu dis ouais, tu trouves que c'est plus fort contre l'Atlético Madrid parce que c'était une demi-finale Champions League. Je te rappelle quand même que ce qu'il a fait hier, ça a permis au Real Madrid d'être leader de Liga.
Du geste technique.
Oui, oui.
Qui était plus fort.
Je crois que c'est encore plus dur ce qu'il a fait contre mettre dans le vent Savic, Jiménez et Godin, alors que le Real, qui avait gagné 3-0 au match aller en demi-finale des champions, était mené 2-0 au bout d'un quart d'heure. Et là, ça y est, il a tué l'Atlético avec ce geste, quoi. Donc, mais bon, Karim est capable de faire des choses hallucinantes et n'a jamais été aussi fort qu'en ce moment. Il est totalement libéré.
Juste avant, tout. Est-ce qu'en Espagne, on a remis, du coup, au goût du jour, la tonnade que Guti avait fait pour Zidane, pour Benzema?
C'était au tout début de Benzema au Real. Guti se présente dans la surface, il peut frapper au but. Il sent à l'aveugle que Benzema est derrière, il lui fait une super talonnade et Benzema marque. Et pendant la retransmission, pendant le match en fait, Guti a fait un tweet pour saluer Benzema. Donc voilà, ça a été comparé. Et on a d'ailleurs comparé une autre talonnade que je dois dire que j'avais oubliée, réalisée par Guti à Zidane, joueur.
Ah oui.
Mais oui, qui était sinon super, je me rappelle
plus moi. Ah, celle-là, on l'avait ressorti quand il l'avait fait à Benzema.
Mais là, c'est pas le coup. Guti, en fait, il a le but vide devant lui.
Pour Benzema, c'était ça, oui.
Pour Benzema, c'était ça, oui.
Il est en face à face avec le gardien.
Pour Zidane, on a l'impression qu'il s'en va, qu'il retourne dans son camp, et là, il sort une talonnade extraordinaire. Mais ce qui se passe avec Benzema, c'est que aujourd'hui, on a l'impression que plus rien ne peut l'atteindre. C'est-à-dire que, je sais pas, un état de grâce qui dure depuis un an et demi, en disant voilà, il est bien dans sa tête, il est bien dans son corps, parce que il joue tous les matchs là quand même. Hein. Il a enchaîné 5 matchs en 2 semaines. Et ils sont très peu à avoir fait ça au Real. T'as Varane, Courtois, Ramos et lui, il me semble.
Casemiro.
Casemiro. Non, Casemiro s'est même reposé un match.
D'accord.
Et c'est Carvajal, voilà. C'est Carvajal. Donc,
et pour toi, Fred, c'est le meilleur joueur du monde, actuellement.
Depuis le retour du confinement, depuis la reprise de plusieurs gros championnats, à part le nôtre, je vois pas qui.
Bah, en même temps, il n'y a pas Mbappé et Neymar qui jouent, donc déjà, ça en fait deux de moins.
Hein. Bah, ça en fait deux de moins.
Il y a Lewandowski, par exemple, qui joue.
Au Bayern.
Ouais, alors Lewandowski, il est très fort.
Pas mal, il met des buts aussi. Hein.
Il met beaucoup de buts. Mais au niveau du jeu.
Salah a du mal. Donc,
de l'implication dans le jeu, de ce qu'il réalise, de tous. Franchement, c'est vraiment Benzema qui est au-dessus de tout le monde. Alors, vous allez me dire, Messi, bah, Messi va pas très, très bien. Il a quelques fulgurances, mais en plus, Messi, avec son équipe, il a perdu 4 points en 5
points. Ouais, on le verra contre City, hein. C'est là qu'il faut faire la diff, hein.
Oui, ah bah, il est quatre retours, hein.
Non, ce qui est vrai, c'est que là, oui. ça a pas trop d'importance d'être meilleur joueur maintenant, quoi.
Contre City, il faudra être le meilleur joueur du monde, là, c'est là.
Bah quand même, il y a une Liga à gagner quand même du côté.
Oui, non, mais le meilleur joueur d'Espagne suffit là pour l'instant.
Mais je parle du titre de meilleur joueur du monde actuellement.
Voilà. Oui, oui.
Mais sincèrement, enfin, on compare ce qu'on peut comparer dans des dans une situation qui est très différente. Alors c'est bizarre de se dire le meilleur joueur post-Covid, enfin post-confinement, mais qu'est-ce que ça révèle aussi sur Benzema? C'est qu'il est aussi fort physiquement qu'avant le confinement. Ça veut dire qu'il a aussi une manière de travailler tout seul chez lui.
Tu m'excuseras, je mets un bémol quand même.
Vas-y.
Parce que trois mois de confinement, ça rabat les cartes à tous les niveaux. Que ce soit mec qui a été blessé pendant trois mois, qui reprend au même moment, il n'a pas le retard à accumuler par rapport à ses coéquipiers. Donc, on a l'impression que tout le monde repart un petit peu sur des bases relativement équitables. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, celui qui a pas une grosse préparation, on peut pas le voir tout de suite sur le terrain parce qu'il y a tellement de problématiques aujourd'hui à gérer, ne serait-ce que dans la préparation physique mais également psychologique par rapport à la reprise, ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux pas dire lui il est en super forme par rapport à ce qu'il faisait auparavant parce que tout est dilué aujourd'hui.
Bah oui, mais sauf que Benzema, je vois exactement le même joueur en plus fort.
Moi, il y a une chose sur laquelle je suis d'accord avec toi, c'est son relâchement. J'ai l'impression qu'il est arrivé à une certaine plénitude, une certaine sérénité. Où aujourd'hui, il a plus rien à prouver. Il a tu vois ce que je veux dire.
Oui, moi, non, mais ça, j'oserais même dire, il en a plus rien à foutre de ce qu'on peut dire de lui.
Exactement.
Tu vois vraiment le côté, mais allez-y, quoi, attaquez-moi. Il est heureux, il se relâche, il est adulé dans le vestiaire comme jamais. Et puis, enfin, c'est quelqu'un qui, en plus, vraiment, parce que je le sais, parce qu'il me le dit, parce que j'en parle au sein du club, il travaille plus que tout le monde.
Il s'est inspiré de Cristiano Ronaldo, tu penses, non?
Ah, mais moi, je me souviens très bien de ce
que il s'est pas inspiré de Snyder, hein.
Snyder qui a quand même fait l'interview l'autre jour, qui a démenti cette information infamante que j'avais moi-même diffusée pendant des années. On l'avait dit. On l'appelait Whisky Schneider et il a avoué il y a trois jours que c'était pas du whisky, c'était de la vodka. Que la vodka Madrid est très bonne. Je n'invente rien.
Hein, il a dit que c'était sa meilleure amie la vodka.
Moi je pensais que c'était Malbar, whisky. Lui, hein. Donc je voudrais m'excuser pour cette erreur.
C'est bien.
Voilà, j'étais pas au bon endroit pour vérifier.
Alors voilà pour l'actu, voilà pour ce qui s'est passé donc en 2020, le 28 juin. Revenons désormais au 29 mai 2018. On est quelques semaines avant le début de la Coupe du Monde et deux semaines après l'annonce de la liste des Bleus. Il n'y a pas dans cette liste Karim Benzema. Un petit extrait de Tim Dugas à l'époque.
Dugas, il a son émission de radio, il fait ce qu'il veut.
L'argument de Deschamps, il prend pas Benzema parce que sportivement, il en a pas besoin.
À partir du moment où on franchit la ligne blanche et il n'y a pas le minimum de respect sur le plan humain, c'est pas le fait de critiquer ou pas critiquer.
Il faut que Dédé aille très loin en Coupe du Monde, parce qu'il faudra assumer aussi ce choix.
Et il ose dire que je prends la France en otage.
Parce que là, c'est quand même, on prend un petit peu en otage l'équipe de France.
Ça dépasse tout entendement.
Je pense que c'est plus dans l'intérêt de Deschamps que dans l'intérêt de l'équipe de France de pas le prendre une nouvelle fois, mais c'est comme ça.
Voilà, donc ce débat, cette prise de position de Dugas, ça va pas être chaud. Alors c'est le principe, déjà je le rappelle, pendant les deux semaines qui viennent, on va revenir sur des débats forts de l'histoire de Tim Dugas. Et donc ce soir-là, après la liste de Didier Deschamps, Dugas, tu as cette prise de position. Alors ça arrive quand même après plusieurs incompréhensions avec Didier Deschamps, notamment sur le cas Karim Benzema. Pendant longtemps, tu lui as reproché de ne pas expliquer à Benzema pourquoi il ne le prenait pas en équipe de France. Et puis ce choix, tu as eu du mal à le comprendre également sportivement. Alors à l'époque, donc, tu avais dit cette phrase, Deschamps prend l'équipe de France en otage en ne prenant pas Benzema. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que deux ans après, je sais pas, tu regrettes cette phrase, tu dirais différemment?
Je crois pas. Hein.
Bah déjà, si on a été pris en otage, là, on a eu le syndrome de Stockholm, hein, au final. Hein.
Je crois pas. Parce que moi, ce qui m'a agacé depuis le départ. Alors après, Deschamps se sert de cette phrase pour dire que ça l'a offusqué, que c'était incroyable, que j'en peux pas dire ça. Écoute, je peux dire déjà ce que je veux. Et je suis désolé, mais le cirque qu'il y a eu entre Benzema, Deschamps et Le Graët pendant des semaines, voire des mois, sans qu'aucun n'ait le courage de dire exactement comment sont les choses, de s'appeler pour les choses et de nous balader. C'est-à-dire qu'on nous a fait quand même croire pendant des mois et des mois que Benzema était sélectionnable jusqu'à qu'il ne le soit plus, le redevienne et ne le tait plus. Donc j'ai trouvé que Deschamps avait une dent contre Benzema et Benzema avait une dent contre Deschamps. Le pourquoi du comment, sincèrement, moi j'en avais rien à foutre, mais j'en avais aussi ras-le-bol, comme m'explique que Karim Benzema était sélectionnable, mais on le sélectionnait pas parce que sportivement, parce que si, parce que là, alors qu'il était toujours aussi compétitif, c'était tout simplement insupportable. Donc il y avait une espèce de double, triple, quadruple langage avec le président Le Graët qui était tout simplement insupportable. Et moi, sincèrement, je me suis senti otage d'un problème entre Deschamps et Benzema qui ne regardaient pas l'équipe de France. Voilà, ils avaient qu'à régler leurs problèmes entre eux. Deschamps avait qu'à appeler Karim Benzema en lui disant « Voilà, je te sélectionne pas pour tel... telle et telle raison, et le problème Benzema était réglé depuis le début, et là personne n'avait rien à dire, sauf que ni Deschamps ni Benzema n'ont eu l'envie, le courage, la décence, le respect de s'appeler pour se dire les choses. Chacun y était avec ses petites phrases. Oui, mais il a dit ça. Non, mais l'autre, il a redit ça. Nanani, nanana. Ils nous ont fait chier. Ils m'ont fait chier avec. Non, mais.
Alors, non, mais là où t'as raison, il y a eu des interviews qu'on a pu faire, que ce soit Deschamps ou Le Graët, où ils nous disaient Benzema est sélectionnable. Bon, ils nous l'ont martelé. Alors que bon.
Ils nous ont saoulé. Donc, ils se sont. Je sais pas, il y avait une espèce de. C'était de la communication. Donc, pour moi, c'était une espèce de prise d'otage, là, d'un conflit qu'il y avait à régler, mais qui était tout simple à régler. Mais non, on préférait jouer le bon flic, le mauvais flic avec Le Graët qui était derrière, qui allait aussi lui-même de sa déclaration. Donc ça ressemble à rien du tout. Donc on m'a imposé mais, ce débat mais gars, avec Benzema qui m'a saoulé, qui m'a gonflé. Donc j'en avais marre. Au bout d'un moment, j'ai dit mais putain, mais
qu'est-ce qui te dit, oui, qu'est-ce qui te dit vraiment qu'il en voulait vraiment de Benzema? Est-ce que en fait c'était pas aussi un prétexte pour se dire moi ce mec là parce que lui comme il veut pas jouer avec beaucoup d'avant, regarde honnêtement, mais il aime pas jouer avec beaucoup d'attaquants. Non mais je te dis, il aime pas jouer avec beaucoup d'attaquants. Et oui, mais donc ça l'oblige à mettre une star sur le banc, ça le fait chier. Donc il le prend pas et voilà, mais, c'est réglé.
Mais écoute-moi.
Et il est champion du monde. Et on est tous à poil sur les Champs-Élysées.
Mais non, mais arrête avec la fin, mais il est champion du monde donc il a eu raison.
Mais non, mais avec ça. Mais non, mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi. Non, il faut qu'il aille au bout. T'as dit qu'il faut qu'il aille au bout, sinon il va falloir assumer.
Oui, non, mais il est allé au bout. Assumer encore aujourd'hui. Pourquoi Benzema, il fait pas partie de l'équipe de France quand t'as envie de te régaler et regarder des matchs de football de l'équipe de France? Ça suffit pas de dire il est champion du monde, donc il a forcément raison.
Non,
mais oui, mais.
Je pense que lui, ça l'arrangeait qu'il soit pas.
Mais est-ce que c'était pas plus. Mais pourquoi ça l'arrangeait? Pourquoi, excuse-moi, pourquoi on peut
parce
pas
que
avoir.
Dans son schéma de jeu,
non, laisse-moi pas finir. Pourquoi on peut pas avoir un minimum de couilles dans sa vie? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Benzema, mais tu le veux pas.
Il a jamais été comme ça.
Mais le problème, il est là. Benzema, au bout d'un moment, tu l'appelles et tu lui dis Karim Benzema, je te prends pas pour telle raison. Voilà, point à la ligne. Moi, j'en ai rien à foutre de l'histoire de Benzema, de l'histoire de Deschamps, j'en ai rien à foutre. Mais à un moment ou un autre, est-ce qu'il est possible quand un garçon qui a 80 sélections, qui a gagné 3 Ligues des Champions ou 4 Ligues des champion, plutôt que de faire une espèce de communication
non,
en bois, la com de Deschamps, une espèce de communication en bois pour pas avoir les coronesses d'appeler Benzema pour lui dire voilà, je te prends pas. En plus, toute l'opinion publique était derrière Deschamps à cette époque-là. Tout le monde était d'accord pour pas reprendre Benzema. Donc, il y avait aucun problème si ce n'est d'appeler le mec pour lui dire je te prends pas.
Et moi, pendant longtemps, il lui a fait confiance. Il l'a pris. On peut pas dire que Deschamps soit un anti-Benzema sportif. Pendant longtemps, il lui a fait confiance.
Je pense qu'il s'est senti trahi et après, il a pas lâché.
Oui, alors évidemment, ça, sur le fond, Julien, t'as raison. Il y a eu l'histoire de l'interview dans Marca, on connaît tous l'histoire. Hein. Mais ce que tu lui reproches, toi, Duga, c'est vraiment ça. Et surtout que juste l'interprétation de il prend l'équipe de France en otage, c'était sous-entendu. Il ne donne aucune explication autour de ça. Donc il fait ce qu'il veut de l'équipe de France. Exactement. Et ça, t'as pas trouvé ça normal.
Exactement.
Manu, ça te fait quoi d'en entendre ça deux ans après?
Alors. Autant je suis d'accord sur la cacophonie en ce qui concerne la communication qui a entouré le cas Benzema pendant pas mal de temps, que ça soit la sextape avec Valbuena entre autres, ou les déclarations de Karim avant l'Euro 2016 où il dit concrètement que Didier Deschamps a cédé à la partie de la raciste de la France. Autant l'affaire était en instruction du côté de la justice, donc on pouvait pas se prononcer non plus du côté de la Fédé. Autant j'ai trouvé, là je suis d'accord avec Dugas sur la communication qui a été désastreuse de la part de la Fédé et de son sélectionneur, comme si tout le monde marchait sur des œufs et qu'on avait le sentiment qu'on n'était pas dans un problème purement et seulement sportif, mais qu'on touchait la sphère sociale et que ça devenait anxiogène. autant je considère aussi qu'il y a des grands joueurs qui ont connu une fin tragique aussi en équipe de France pour X raison, qui n'avaient pas de lien directement avec le terrain proprement dit, que ça pouvait être aussi un des vecteurs qui concernait l'image, le comportement, une adéquation aussi. On sait très bien, Duga, tu le sais, quand tu es appelé en sélection, tu n'es pas dans la même circonscription que d'un club où tu dois vraiment te fondre, où tu as l'image aussi qui rejaillit du pays. On n'est pas dans les mêmes thématiques.
Mais Jacquet a appelé Cantona pour lui dire.
Allez le voir même.
Ouais, mais a été le voir pour lui expliquer.
On se rappelle du sac à merde aussi.
Moi, c'est la seule chose que je demande de
Cantona. Ginola
aussi. Nico Anelka, pareil, ça s'est très très mal terminé. Donc,
certains sélectionneurs considèrent qu'ils n'ont pas à se justifier.
Et je vais revenir justement, ça sera mon dernier argument. Là où je dis que Didier Deschamps n'a pas pris l'équipe de France en otage par rapport à Karim Benzema, c'est que les résultats lui donnent raison et que finale de 2016, vainqueur en 2018, tu te dis que. Quand tu regardes les stats aussi de Karim avec l'équipe de France, on est loin du statut des stats qu'il peut avoir aussi avec le Real Madrid. Donc, c'est deux joueurs qui ont
jamais été aussi forts.
Oui,
mais il est très très fort,
Fredo,
l'équipe de France.
Fredo, justement, on peut retourner aussi la question dans le sens opposé. Pourquoi pointer un doigt accusateur du côté de la Fédé, de Le Graët, pourtant je le porte pas dans mon cœur, et Didier Deschamps? Et pourquoi on ne pourrait pas aussi pointer un doigt accusateur envers Karim Benzema en disant est-ce que tu as tout fait aussi?
C'est ce que j'ai fait aussi.
De France.
Ça, on l'a toujours dit.
Mais Benzema aurait dû aussi pour peut-être prendre son téléphone et régler le problème plutôt que de nous faire chier, de faire chier tout le monde avec cette histoire.
Ou faire des excuses publiques.
Et pas liker dès qu'un mec clash le sélectionneur aussi. Il like à chaque fois le mec.
Tu as raison.
À chaque fois.
Ça fait partie des erreurs, oui.
Moi, comment tu peux te passer aujourd'hui du mec qui est le meilleur footballeur français?
C'est une tradition française, monsieur. On s'est passé de Ribéry, de Ginola, de Cantona.
Ça, excuse-moi Gilbert, hein, t'es en face de moi, mais ça, oui, c'est la réflexion typique du supporter de base.
Ça, c'est vrai.
Bah, c'est ce qu'on est, hein, nous. Excuse-nous, Manu.
Mettez-vous à la place d'un sélectionnaire. Il raisonne pas comme ça. Lui,
mais
il raisonne en termes.
Il a aussi le droit d'être intelligent et de changer.
Oui, mais un sélectionneur ne choisit pas les meilleurs joueurs, choisit la meilleure équipe. Tu vois la nuance?
C'est un peu basique, la réflexion de Gilbert.
Non, oui, c'est pas basique du tout. Écoutez-moi. J'ai fait une introduction, on va dire, qui résumait un peu le truc, pour que vous compreniez bien.
Merci.
Maintenant, je développe.
Réponds si on t'a pas de face, Gilbert. Réponds si on t'a pas de face.
Développement. Deschamps, dans un premier temps, il le prend. Oui. Après, il le prend plus.
Oui.
Mais en fait, c'est un dogmatique, Deschamps. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit.
Non, c'est un pragmatique.
Non,
c'est un pragmatique.
Non, c'est un dogmatique. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se dit, je le prends plus. Et il reste sur sa position. Alors qu'il y a de l'eau qui coule sous les ponts. Il a des attaquants qui sont moins bons.
Il a eu des résultats ou pas?
Moi, j'aime bien Giroud.
Je juge pour des résultats.
Aujourd'hui, Benzema est meilleur que Giroud mille fois.
Excuse-moi, mais on se trompe de débat. On a essayé.
Donc, Deschamps, il doit reprendre sa position.
Mais Deschamps nous a fait croire, parce qu'il a jamais expliqué, que
c'était
pire.
Sûr.
C'est que Benzema, il le prenait pas parce qu'il créait des problèmes dans l'équipe.
Alors que
Karim Benzema n'a jamais créé aucun problème nulle part où il est passé. Et c'est là que je trouve que c'est malhonnête.
Voilà.
Là que je trouve que c'est très malhonnête de la part de Didier Deschamps. C'est de ne pas être clair avec Benzema. Il lui explique, je te prends pas pour telle raison. Et au moins, là, il a laissé sous-entendre que Benzema posait des problèmes en sélection et que ce serait pas possible de bien jouer avec lui.
Oui, alors c'est pas.
Il a sacrifié Valbuena aussi qui avait rien demandé. Hein.
C'est pas sportivement.
Au passage,
il y a quand même l'histoire avec Valbuena.
Lui, il a pris très cher.
Il y a l'histoire aussi pendant la Coupe du Monde au Brésil en 2014.
Et on sort de 2010 aussi avec ce qui s'est passé, le traumatisme.
Il y a eu des choses quand même.
Il n'y a pas Benzema en 2010.
Justement, et on sort du traumatisme. Ce qui veut dire par là, c'est qu'il y a une volonté vraiment d'épurer tout ce qui n'allait pas bien autour de la communication.
T'es sélectionneur, tu dois prendre les meilleurs.
Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, Gilbert.
Regarde 98.
Ta
tradition bidon de se passer des meilleurs, on n'est pas obligé de la faire ad vitam aeternam.
On a gagné avec Diomède. Merde.
Non, tu vois, c'est pas bon.
Il a pas joué.
Pour une fois. Ah, il a joué. Il a joué, Diomède.
Il a joué un peu quand même. Ouais.
Oui, enfin.
Oui. Il a plus joué que Thauvin et Rami, hein, je te le dis. Hein.
Mais qui tu prends en 98 d'autres qui n'étaient pas.
Bah, il veut Cantona, Julien.
En 98, mais il joue plus.
Non, moi je veux Ginola. Je veux Ginola déjà.
Mais Ginola, il joue encore.
Je veux Pouget. Pouget est en pleine bourre.
Ta théorie n'est pas correcte.
Tony Vérel.
À la limite, j'ai tout.
Anelka.
Je veux bien.
Tony Vérel et Anelka, franchement.
Oui, tu disais que tu préférais Pierre Lègle à Manu d'ailleurs. Tu
non, moi, alors j'ai toujours préféré Pierre Lègle à Manu. Même la Mouchi, j'ai préféré 100 fois la Mouchi.
Si je puis me permettre. Là, parce que là, on regarde tout de suite, alors, même si on est un petit peu dans du souvenir de ce qui est passé il y a deux ans, là, si on se projette, l'équipe de France, dans quel état va sortir Griezmann de ce qui se passe au Barça dans les prochaines semaines? Non, mais sérieux. Là, parce que là, on se dit, de toute façon, il y a Giroud.
Dans quel état va sortir Giroud de la concurrence dans son club?
Ouais.
Bah comme bon,
mais surtout Griezmann, là. Griezmann, on sait pas, là, il est dans un état terrible, là. On sait pas dans quel état va sortir du Barça. Et on va se peut-être mordre les doigts de ne pas avoir un Benzema.
Parce qu'on ne verra jamais là, Mbappé, Benzema au top, les deux.
Au Real, oui.
Jamais.
Bah si, au Real.
Ah, au Real, peut-être.
L'année prochaine, ouais.
Ah, mais quand même.
Tu vois, tu tends la perche à. Il n'en peut plus, là. Il frétille. Fredo.
Non, je frétille pas.
Fredo, c'est impossible que Mbappé parte au Real cette année? Non.
À cet été, c'est impossible. Avec les circonstances, c'est pas possible. Non, non.
Enfin, et autrement, ça aurait pu se faire?
Ah, bah oui. Enfin, en tout cas, Florentino Pérez, il est à fond tout le temps. Hein. Donc,
et est-ce que je crois que lui aussi, hein, Mbappé aussi. Hein.
Mbappé, il n'a toujours pas prolongé?
Non, non plus. Non,
voilà. Voilà. Non, mais c'est.
Non, mais c'est
fait,
c'est
Pérez. C'est fait, t'es sûr?
On a fait le deuil,
t'as fait nécessaire. Longtemps, hein. T'as fait nécessaire, toi?
Ouais. Tu lui as fait la bise et tout. Non, c'est bon.
Ah oui, c'est réglé. Bon. Très bien. On en reste là sur Benzema.
Mais on garde Kurzawa 4 ans, donc on s'en fout.
Oui, Kurzawa prolongé 4 ans.
Ça, c'est génial.
Ah, c'est bien.
Ah ouais, c'est super. Je suis bien content d'arrêter, tiens. Raison de plus pour arrêter.
Merci beaucoup, Fred.
Mais je peux pas rester au quiz?
Ah bah bien sûr, si tu veux.
Moi, c'est ce que je préfère. Pas de problème.
Si c'est Barbara, je vais kiffer Fred. Hein.
Allez, on fait ça dans un instant, le blind test. À tout de suite. Allons-y sur les messages. Alors juste avant, j'ai Football Total qui m'a envoyé le classement du blind test.
Tu sais qui est Football
Total? Le classement individuel. C'est le statisticien.
C'est le jeune gars qui est venu dans l'after l'autre fois.
Ah oui, comment il s'appelait?
Maxence, 14 ans, brillantissime.
Très bien. Alors on l'embrasse.
Brevet mention très bien.
Enfin, supporter du Real.
Donc comme il nous a envoyé le classement, savez-vous qui est en tête? Qui est en tête du blind test? Qui a donné le plus de bonnes réponses?
Julien, non?
C'est Julien, exactement.
Bah tu m'étonnes.
En tête de l'indice de performance.
Le test, c'est pour les poireaux, hein, de toute façon.
C'est vrai.
C'est le jeu apéro au départ. Hein,
avec 17 victoires, Julien est devant. Voilà. Bon, après, il y a un ratio très compliqué qui lui permet d'être en tête. Mais autant de victoires que Duga, qui a 17 victoires également.
Ah oui.
C'est magnifique.
Bah, bien sûr. Mais pour plus de
blind test. Et qui est troisième?
Ah, c'est pas moi. Hein.
Non.
Super. C'est Franck.
C'est Franck. Exactement, c'est Francky. Franck Leboeuf qui est là. Alors, sachez qu'en quatrième, il y a Coach Courbis. De façon incroyable.
Son classement est mal fait parce qu'il devrait avoir une prime.
Oui.
Moi, j'en ai fait 5, j'en ai gagné 4.
Exactement.
Pardon, j'ai quand même un ratio qui est largement supérieur à certains.
Ça au niveau des buteurs, dans une saison, Piquion, il était meilleur joueur d'Europe.
Non, mais sur le ratio, par exemple, Antoine Varnier et Mohamed Bouafsi sont devant parce qu'ils ont 100% de victoire. Mais ils en ont fait un ou deux, tu vois. Donc c'est... Mais sinon, t'as un bon Varnier. Ouais, ouais.
Incroyable.
Ouais, ouais. Exactement.
Antoine Varnier, il a surtout mis une énorme branlée à Dimeco, je crois, au
Kikadi. Bah bien sûr, il ne parle plus vraiment depuis.
Je comprends.
Bah oui, bien sûr.
Je ne peux pas assumer ce qu'il y a vécu Eric.
François, il a dû tricher.
C'est vrai. Ah non, celui-là, cette fois, il n'a pas triché. Non, c'est impossible. Bon, les autres fois, je ne réponds pas là. Et là-dessus, oui. Alors, Gilbert, tu es 6e, sache-le quand même. Et Manu, tu es 12e, premier relégable.
Superbe. Ouais, mais c'est bon, il peut y avoir saison blanche.
On peut pas faire un championnat à 12.
Ouais, vive sur la saison blanche. Allez, à tout de suite.
RMC, 18h-20h,
Tim Dugas,
Jean-Louis Tour,
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h49, c'est le moment, vous savez, c'est le moment du blind test, on va se régaler. Allez,
exactement, c'est parti, on se détend et puis ensuite il y aura le RMC Football Show spécial foot européen à partir de 20h. Première équipe, Christophe Dugarry, Emmanuel Petit, voilà. Fred Hermel, que des champions du monde.
Bravo.
Deuxième équipe, Gilbert Bribois, Julien Cazard. Qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont invaincus, etc.
Une défaite
seulement, mais voilà. On les laisse ensemble. Avec vous, Christophe et Adam, qui sont au 32-16. Christophe, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Salut Christophe.
Tu veux faire équipe avec qui?
Christophe.
Très bien, Christophe. Avec Christophe. Et donc, Adam, bonsoir. Tu es avec Gilbert et Julien.
Salut Jean-Louis, salut toute l'équipe.
Salut,
je voulais défoncer Cazard à la base.
Ah mince, désolé.
Ça fait toujours plaisir.
On te fera son numéro.
Mais t'inquiète pas, je vais te faire gagner.
Mais tu nous appelles d'où, Adam?
De Toulouse, mais supporter de l'OM.
Toulouse, normalement, on aime bien jouer.
D'ailleurs, c'est la ville de Julien, la vraie ville de Julien Cazard.
Ouais, mais il n'y a pas de club chez nous, ça n'existe pas le foot ici.
Oui, mais il y a Julien comme supporter, c'est ça le principal. Ouais, on y va.
Continue. Oublie pas que t'as les dents quand même.
Allez, Julien. Allez,
mais j'oublie pas que t'es à distance. Première chanson, on cherche l'interprète de cette chanson et ensuite tu auras une question foot.
Dave.
Oh, oui, Julien Cazard. Oh là là, il est rapide. Fred,
c'est
bien.
C'est pour Manu, ça. Ah ouais, Manu, tu vas le trouver, ça, Dave.
Bah non, c'est pour Fredo, ça.
Rendez-vous sous le ciel.
Ou quoi? Parce que là, il y a pas un qui a la même version. Alors, question sur la sélection néerlandaise. Qui est le joueur le plus capé?
Cruyff.
Schneider, Gilbert.
Schneider, bien sûr.
Eh oui. Ça fait 2-0.
Ah oui, c'est vrai que Cruyff s'était fâché en fait.
T'as un mec pour un mec qui boit.
134 matchs. Ouais, c'est Schneider, route, effectivement. Nouvelle chanson 2-0. Réveillez-vous l'équipe de Christophe.
Souchon.
C'est pas Souchon, c'est
Jean-Louis Aubert.
Si, c'est Souchon.
Les enfoirés. Les enfoirés.
C'est Fred Hermel.
Voilà, c'est nous. Ouais.
Bien, Fredo. J'ai dit. Mais Souchon, non mais Souchon l'a dit.
Bien, Fredo.
Mais non, moi j'ai dit tout de suite Souchon.
Souchon, c'est Fred Hermel.
Ouais. Ah d'accord.
Pourquoi t'as dit non, moi Jean-Louis?
Parce que j'avais une autre liste.
D'accord.
Excusez-moi.
D'accord. C'était Mireille Mathieu, il pensait.
Voilà, on va donc enchaîner avec une nouvelle chanson, il y a 2-1.
Quoi?
Bah oui. Pas de question là?
Non, il n'y a pas de question.
Oui, il n'y a pas de question.
Ah, parce que je ne l'avais pas dans ma liste.
Raphaël.
Oui, Dugas, Raphaël.
Il est impressionnant, Dugas, quand même.
Ouais. Là, il est impressionnant. Je vais m'entendre. Ça dégaine vite. Deux partout.
Bah, oui, mais s'il n'y a pas de question foot, on va galérer, nous, je vous le dis tout de suite. Bah,
hein. Attends, mais moi j'étais pas avec Dugas.
Si, t'es avec Dugas, ça fait 2-2.
Non, ensemble, 2-2.
T'inquiète pas, tout va bien. Question foot. Raphaël, comme Raphaël Varane, pardon. Contre qui Varane a-t-il mis son dernier but en
Suède.
Non.
Belgique,
Allemagne.
Non, ça sert à rien de crier fort, hein. C'est pas comme ça qu'on a la bonne réponse.
Uruguay,
non,
Bulgarie.
Non.
Argentine.
Gilbert se rapproche, mais non.
Arménie.
Monténégro.
Brésil. Non.
Bosnie.
C'est vraiment un tout petit pays.
Ah, San Marino.
Non. Un peu plus grand.
Albanie.
Andorre.
Non.
Andorre.
Non, toujours pas.
Islande.
Non.
Finlande.
Bosnie, Croatie, Serbie.
C'était pour personne.
Luxembourg.
C'était la Moldavie.
Ah, je l'ai dit.
Oui, bien sûr. toujours deux partout. Vous aurez des questions foot, vous connaissez même pas les matchs de l'équipe de France. C'est incroyable. Ouais,
franchement, France-Moldavie, si on peut éviter.
Nouvelle chanson.
Madonna.
Non. Non.
Ronan Luce.
Ronan Luce.
Ah oui, Julien Ronan Luce.
Alors, c'est que des chansons françaises que vous me passez.
Il y en a quelques-unes.
C'est pour ça, alors, en fait. C'est pour ça que
c'est les côtés. T'inquiète pas, il va mettre Joule. C'est plus vraiment du français, là.
3-2. Ronan Luce, La Lettre. Qui est sortie en 2006.
Dominic.
Non.
Toulala, en
Afrique du Sud. Vous rappelez de la finale de la Ligue des Champions 2006.
Oui.
Nous allons chercher le troisième buteur après Campbell, Eto'o,
Benedetti,
Dugas, bien joué. Et pas Benedetti, qui n'existe pas. Trois partout, bien joué.
T'as une vraie question foot là, Dugas, je suis impressionné.
Oui.
Franchement, vraiment. Ça
bravo,
me touche.
Bravo, Dugas.
C'est sa femme qui a soufflé.
Bah non, sa femme c'est pour les questions musique, pas le foot quand même.
C'est vrai,
ça qui est horrible. C'est sa femme les questions foot.
Allez, salaud.
Trois partout, on l'embrasse bien sûr. Nouvelle chanson.
Ah, c'est machin là.
La tortue.
Christophe
Willem.
C'est Adam qui l'a dit.
Non,
c'est Adam.
La tortue, c'est moi.
C'est Adam qui l'a dit avant. Mais la tortue, c'était pas son nom.
Bien joué, Adam.
J'ai pris sa carte d'identité, il n'y a pas écrit la tortue dessus. C'était Christophe Willem. 4-3.
Christophe peut jouer avec nous aussi, hein,
non, mais là j'ai mon producteur, Antoine Varnier, qui me dit la tortue, ça passe.
Ah, non, oui,
non,
ça passe.
Non, ça passe pas.
Non.
Vous aurez compris pour qui il joue. 4-3.
Mbappé.
Pourquoi?
La tortue ninja.
La tortue.
Ah oui, non, d'accord. Double jeu donc de Christophe Willem, sorti en 2007. Qui finit troisième de D1 cette année-là?
Nantes.
Lyon.
Non.
Bordeaux.
Monaco.
Non.
Marseille. Monaco.
Non. Bordeaux.
Adam. Montpellier. Adam, c'est pour toi.
Auxerre.
Lille.
Toulouse. Non,
Toulouse, Manu. Le seul qui dégaine.
Non, je dis avant Manu. Non. Je dis avant Manu.
4 partout. Non, pas dit avant.
4 partout.
Je dis avant.
Toulouse, c'est ça, j'ai dit avant.
Moi, c'est la seule. 4 partout. Quel match. On se régale. C'est magnifique. Nouvelle chanson.
Chantal.
Chantal Goya.
Non.
Imagine.
Oasis du gars.
C'était pas Imagine de Tito. 5-4.
Vous pouvez ouvrir le micro de Gilbert, s'il vous plaît.
Manchester City.
Manchester City. J'ai rapporté 2 points en équipe. Tu plaisantes ou quoi? Bonne moi, je suis sur la question foot, hein, je te laisse.
Ouais. C'est ça la réponse ou pas?
Non, ce n'est pas ça la réponse. Ah, mais c'est une question sur Manchester City, Oasis, bien sûr. Qui était coach de City avant Guardiola?
Pellegrini.
Ah merde. Pellegrini.
Ah oui.
C'est Manu.
Mais oui, bien sûr.
C'est moi.
Eh non, c'est Manu.
Ah,
non.
C'est moi.
C'est Manu.
C'est moi.
6-5.
Il n'y a pas de VAR là?
Non. 6-4. 6-4.
Et 3 rien pour moi.
Pour les champions du monde. Fred est toujours là?
Je suis là, bah oui. Pas de Souchon.
On y va, nouvelle chanson, vous pouvez vous refaire les
passer incognito. Ah c'est
ah non, moi j'écoute pas ça.
Moche,
bien joué.
Moche patatos.
Bien joué Adam.
Eh oui, on est là, Gilbert, allez.
Mais c'est quoi cette musique?
Mais c'est quoi cette musique là?
Mais c'est la musique à la mode là, vous avez pas vu la
musique. Non, c'est pas à la mode.
Attends,
tu me fais
honte
là, normalement.
Il y a 48 ans, mon poulet,
attends.
Toulouse,
c'est Valide
qui a fait
6-5.
Mais oui, Valide, les Toulousains, ils ont eu gol des Jean-Pierre Madère, ils t'expliquent la musique. Ah. Non, mais
c'est vrai, Validé, c'est vrai.
Eh oui.
Alors, on va faire une dernière chanson. 6-5. On a bien compris.
Ah non, qui sont foot là.
Il y a marre des chansons.
Il fait tout pour faire gagner du gars,
c'est plus drôle.
Il fait gagner du gars, lui.
C'est une émission de foot ou de chansons ici?
De chansons.
Katy Perry, du gars. Là vraiment, j'en ai vu des arbitrages à la maison.
Pour finir la question foot, I Kissed a Girl donc de Katy Perry. Oui. Quel joueur a fait un bisou à Zlatan en Ligue 1 alors qu'ils n'arrêtaient pas de se chauffer?
Mavuba.
Non, comment il s'appelle?
Joe Barton.
Non, pas Mavuba.
Sivili,
du gars injouable ce soir, donc dans ce blind test.
Musique et bisous, il est très fort.
Bravo Christophe, même si t'as rien trouvé et qu'Adam a trouvé plein.
Merci Fredo.
On t'envoie quand même un t-shirt RMC Christophe. Merci à tous, Fred, Gilbert, Julien.
La prochaine fois, vous mettez des musiques quand j'habitais en France il y a 30 ans, tu sais.
Ça marche, Fred. On vous retrouve dans l'after ce soir. Manu, merci. Du gars, demain, 18h pour Team Du gars, dans un instant, le RMC Football Show. Ciao.
RMC, 18h-20h, Team Du gars.